Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Enfin ça c'est le présentateur qui parle, en vrai à l'intérieur de moi je suis comme vous, hein. Je suis crevé, j'ai envie de rester au lit et regarder les séries toute la journée sous ma couette. Mais on est là. On est là. Oui, elle est bien cette petite musique, oui, j'avoue. Vous allez bien? Ah, heureux de vous retrouver. C'est si dur de se lever. Oui, mais c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de lumière, il fait froid. Les enfants à la maison, je vois bien, ils sont dans ce mood un peu marmotte. Je pense qu'on resterait bien tous au lit. Mais bon, il faut aller à l'école, il faut aller au travail. Il pleut. Il pleut, me dit Camille. Voilà, renifleur de paix, actuellement au lit sous ma couette. Oh là là. En vrai, ne regardez pas le replay, on va le regarder ensemble dans un instant, Fabrica. Arrête de regarder le replay. Et si on faisait... Il faudrait que j'invente un concept de stream où je reste au lit. Il faudrait que j'invente un concept de stream, une idée d'émission où je reste au lit. Mais pertinent, quoi. En ce moment, je me dis que je vous lirais bien des livres. Quand j'étais plus jeune, j'avais une vraie passion pour la littérature. Et puis après, le travail a chassé un peu les livres de ma vie, puisque j'ai manque de temps. Et je me dis toujours que je redeviendrai un grand lecteur quand je serai à la retraite. Donc, littéralement dans 6 mois, vu mon âge avancé. Mais des petites soirées au coin du feu, tu vois, où je vous lis un livre. Je sais pas ce que ça vaut comme idée. Tu devrais trop nous lire des livres, dit Étienne. Les soirées lecture ASMR. Ce serait incroyable, dit Azeroth. Vous croyez que c'est une idée ou pas? Mon lit, Étienne, lecture comme Père Castor. Père Castor, lis-moi une histoire. Tu lirais trop vite pour nous. Non, je prendrais le temps. Dans un lit au coin du feu. C'est pas dangereux. Ah non, mais on mettrait un faux feu. Un FF. Pourquoi pas? Force, Yael. Ouais, je suis content que l'opération soit bien passée. Force à toi. Je suis dyslexique, l'idée qu'on me lise un livre incroyable. Eliezer, ok. Quand t'avais lu le livre de ton papa, c'était bien. Il est toujours avec moi, le livre de mon papa. Il est toujours avec sur moi, sur mon setup. Toujours devant moi. Je plus sois, j'en avais parlé quand tu cherchais une idée pour les samedis. En vrai. Les samouraïs ne partent pas à la retraite, ils meurent dans une rixe. Ça, c'est la légende. Mais moi, j'ai des amis... pas samouraï, mais genre, qui vivent une retraite bien méritée. Alors, ils sont... Il y a des... Sibou, elle fait ça? Ah, Sibou, bien sûr, je la connais. Sibou, que tu connais, elle fait ça sur Twitch. À un moment, vu que son métier, c'était voix off, c'était cool à suivre. Vu que son métier est voix off, ouais, elle est voix off, Sibou, elle est plein de choses aussi. Elle est streameuse. Décidément, Automode ne veut pas de moi dans plusieurs lives alors que je fais rien de grave, c'est un complot, me dit Mélissa. Mélissa, historique. Mélissa, pourquoi Automode t'en veut? Qu'est-ce que t'as? Ah oui, t'as écrit Castor. Ah! Attends, le mot Castor est bloqué sur cette chaîne. Parce que Castor, le barrage républicain, sérieux? En vrai, on peut enlever ce... Attends, sérieux? C'est la dictature ici. C'était spam pendant les présidentielles. Ouais, on peut. Quelqu'un pour enlever le mot castor des mots interdits ici. Bien sûr. Bientôt, on ne va plus pouvoir rien dire. De toute façon, on ne peut plus rien dire, de toute façon. Merci, Edo Tensei. Merci, jeune Mako. Mako, c'est pas un poisson, un Mako. C'est pas un Mako. C'est pas un requin. Requin Mako. Ah, mais c'est pas comme ça. Sugar Frog vient de retirer le mot castor des termes bloqués. Let's go! Tourner en libéral, quel plaisir de suivre la matinale sur la route. Et ça parle de politique déjà. Président Coty, dans le chat. Hein. Oui, salopette. C'est pareil, salopette. Faut l'autoriser, salopette. Le mot salopette est interdit sur cette chaîne. Mais oui, Marvel, baiser lâche. Regarde comment. Où est mon ami? Attends. Voilà, comment Président Coty essaie d'amener la politique de bon matin? Ah, c'est Twitch? C'est pas nous, c'est Twitch qui interdit le mot salopette. Parce que dans salopette, il y a pète. Puis il y a salaud aussi. C'était l'énergie de la planète dans FF7, le Mako. Ok, d'accord. Oui, je reviens à Président Coty, tourner en libéral. Tourner en libéral, quel plaisir de suivre la matinale sur la route. Libéral! Qu'est-ce que... Donc t'as une profession libérale, ok. Donc c'est Twitch. Twitch, il interdit salopette. Ok. Bon, on se fait un petit. Oui, donc vous pensez que des petites soirées, des petites nuits à vous lire un livre. Je vais essayer. C'est un truc que j'ai envie d'essayer, voir ce qui se passe. Train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir tout seul. Ok. Bah, Gucard qui m'encourage de toutes ses forces. J'y crois pas trop, mais go essayer. Okay. Un bon San Antonio. Bon, on lira de tout, on lira de tout. Bonjour, tu as des idées de livres? Bah, les livres que j'ai aimés. Les livres que j'ai aimés. Là, je vous lis les journaux que j'aime, je vous lirai les livres que j'ai aimés. Il y avait une émission sur C8 dans cet esprit, Voyage au bout de la nuit. Ok. Tu trouves aussi le temps de le lire? Non, justement. Je ne lis plus, je lis que les journaux, moi. Bobin, oui, Christian Bobin, oui. Par exemple, Christian Bobin. Il y a de bons livres écrits par Marlène Schiappa pour la lecture le soir, ambiance tamisée. Ça, Marlène Schiappa, elle a écrit des livres érotiques, je crois. Marlène Schiappa, l'ancienne ministre, elle a écrit des livres où des gens sont en petite tenue. Ils sont en petite tenue et même ont un peu chaud et à un moment enlèvent leurs vêtements, je crois. Et ça se frotte, je crois. Des livres érotiques. Olé, olé, oui, des livres olé, olé, ouais. Bruno Le Maire aussi, il a écrit des livres olé, olé. Ah. Tu veux pas commencer par lire le livre de Sarko? Non, on n'a pas. Non, non, je pensais plutôt à la littérature, tu vois. Non, je pensais plutôt à des choses avec des jolis. Enfin, bien écrits, quoi. Ah oh oui, non, je ne vais pas vous emmener vers cette littérature-là. Le truc est écrit en 2 semaines, là. Non, trois semaines. 21 jours. Non, pas déconner non plus. Faut pas, pas déconner non plus. Bon, échauffement ou pas? Parce que là, je ne vous sens pas échauffé, là. On va se faire un échauffement. Mais oui, bonne question du de peu. Mais que font nos politiques pour écrire des livres? Mais où trouvent-ils toute cette énergie? Debout! Bon, je suis en train de travailler sur. Voilà, je suis en train de chercher comment maximiser les potentialités sonores et acoustiques de ma table de mixage pour que tous les petits extraits là soient vraiment top. Je suis un peu exigeant, je ne suis pas content du résultat, je vous remets ça bientôt. Les petits pas de la convoi des phrases politiques mythiques. Hein. C'est une bonne situation, ce cri pour un politique? Un ça me plaît, mais avec des bouquins, ça ne marcherait pas en audience, mais ce serait un chouette concept. Eh bien, c'est bien ça qui me fait peur, Zartmo. Je pense que cette idée que j'ai de vous lire des livres, c'est exactement ça. C'est un bon concept que personne ne regarderait. Hein. Vous savez, c'est comme les émissions à la télé, les gens, tu leur fais des sondages. Alors, tu leur fais des sondages. Mais à quelle télé vous voulez? Quelle télé? Oh, nous, on veut des émissions de qualité. Nous, on veut des émissions qui parlent de choses sérieuses. Oui, on voudrait plus de théâtre et on voudrait de l'opéra aussi à la télé. Et on voudrait des choses un peu exigeantes. Ok. Et puis à la fin, ça regarde le Big Deal, quoi. Donc, et les émissions dites intelligentes, les gens ne les regardent pas, quoi. Donc, ça pourrait faire ça, cette émission-là, quoi. C'est très intelligent, le Big Deal. Oui, alors ça ne s'écrit pas comme ça, par contre. Le Big Deal DEL, ça c'est une émission de Donald Trump. Alors, attends, on va d'abord s'échauffer. Alors, on va s'échauffer parce que je pense que quand on part comme ça sur l'actu, je suis à moitié endormi et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je n'arrive pas à te suivre tellement tu parles vite. Salut Noïten, je vais ralentir. On va s'échauffer. Tiens, pour toi, pour te réveiller, Néoten, on va se faire un petit échauffement. Alors, attends, 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 attends. Ok. Voilà. Vous êtes prêts? Peut-être que ce serait mieux de te donner un rendez-vous live pour parler d'une œuvre que tu as lue et échanger à ce sujet. Non, je vais vous faire la lecture. Alors, un petit échauffement. Vous êtes prêts? Ok. C'est pour éviter le claquage pendant l'actu. Mince, j'ai déjà fait des pompes ce matin. Eh ben, c'est pas grave, l'ortise tout. Ok. Ok. Allez, échauffement. Là, vous avez rien, c'est normal. Là, hop, là, vous avez ce qu'il faut. Ok, prêt. Allez, tout le monde danse, hein. On va surtout travailler le haut du corps, les épaules, les bras, voilà, tout petit peu le bassin. Faut pas déconner, parce que c'est à la base, c'est une méthode de gymnastique douce pour les personnes âgées. Voilà. Et que j'ai importé sur cette chaîne pour, pour vous réveiller de bon matin. Donc attention, on y va doucement. Ok, c'est parti, le petit réveil du matin. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai arrêté de faire la télé, moi. Parce que ça, il faut vraiment que j'installe des rideaux chez moi, me dit Chao Ticroute, les voisins d'en face ont l'air perplexes. C'est pour ça que j'ai quitté la télévision, moi. C'est parce que je ne pouvais pas faire ça. Hein? Notamment sur France Info, vous imaginez la matinale de France Info? J'avais une super équipe. Hein. J'ai beaucoup aimé travailler sur cette chaîne. Je travaille avec des gens le matin que j'adorais. T'inquiète, Alexandra, on va le mettre à jour le best-of, on va même se le regarder. Et donc, donc j'avais beaucoup de liberté. On s'amusait bien en vrai. Je crois que je l'ai présenté 5 ans cette matinale de France Info. Mais je ne pouvais pas faire ce petit genre d'échauffement. Et pourtant, hein, ô combien nécessaire. Qui, voilà, grâce à moi, hein, vous êtes 1371 déjà. Eh bien, il n'y aura pas de claquage. Hein. Ça va pas, ça va rien se froisser. Voilà. Et maintenant. Merci pour ce moment de danse, j'avais pas autant bougé depuis longtemps. Eh ben, on se le fera régulièrement. Voilà. Tant que Trump fera l'actualité, c'est-à-dire que tant qu'il sera vivant, le bougre, eh bien, on se fera des petits échauffements comme ça. Voilà. Là, je viens d'économiser, de faire économiser à la sécurité sociale, à notre système de santé, à notre société française, mesdames et messieurs, un bon paquet d'oseille. Hein. Parce que là, le bénéfice à court, moyen et long terme de ce genre de petite séance d'échauffement le matin, je peux vous dire, c'est du lourd. Voilà, à propos de lourd, n'oubliez pas, on a un joli samplet dimanche avec Bruno Universimu, le simulateur, le roi de la simulation. C'est un gars qui simule à mort. Tout le monde m'a dit ça. Et donc, il me fait découvrir Farming Simulator. Ce sera dimanche soir, on va bien rigoler. Ok, on enchaîne avec le nouveau best-of, puisque Mathieu, qui gère la chaîne YouTube, nous a fait un nouveau best-of, best-of hebdo. Et puis après, on va partir sur l'actu, bien sûr. Best of Hebdo, c'est le meilleur d'une semaine de stream sur cette chaîne. Mathieu fait un super boulot. On en est, mesdames et messieurs, au 64e Best of sur cette chaîne. Let's go. Certains ont déjà vu les extraits, ou en live, ou sur mes réseaux, mais là, on a vraiment la crème de la crème. Let's go!
J'ai sorti mon gros engin aussi, Sam.
Moi aussi.
Attendez, moi aussi je sors.
Oula.
Oh, ça fait 3 gros engins, mais quelle soirée.
Sur le même
ça
site
va être sympa.
Ça crée vite d'engin.
Ouais, là on est sur le même site. Regarde, oh là là.
Waouh, la tienne est toute brillante.
Ouais, je la lustre.
Oh putain. La dernière fois, on a eu un coup de fil de Madame Étienne à 5h30 du matin. Je crois qu'on est ensemble depuis 16 ans. C'est la première fois qu'elle m'appelle comme ça. Au taf, c'est du taf, hein. Pour me dire, mais sérieux, quoi. Ah, bougez pas. Bon, les amis, nuit incroyable. C'était un petit stream, non? Ah, c'était 7h? Ah, ok. Ah, 7h.
J'avais pas vu que ça avait duré aussi longtemps, en fait.
On voit pas le temps passer en vrai. Hein. Le plus drôle, c'est que t'as rien laissé paraître. Enfin, mon épouse qui appelle à 5h30 du matin en stream, vous savez très très bien, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a pu me dire. Pas SMS, hein, pas WhatsApp. Hein. Le coup de fil, quoi. 5h30. Je me suis fait Wi-Fed. Elle m'en a pas reparlé après.
5h19.
T'as intérêt à être en forme, hein, je peux te dire. Au moindre signe de faiblesse, de fatigue le lendemain, genre, ah, je suis pas en forme aujourd'hui. Ah ouais, je peux te dire que tu prends cher. Je peux te dire que pendant 24 heures, t'as intérêt à être en mode pop-up. Hein. C'était très drôle. Enfin, c'était très drôle, je faisais pas le malin. D'ailleurs, j'ai cut, hein. 5h30, j'ai cut. Hein. C'était juste après ça en plus.
One shot.
One shot.
First try. De Vakin.
Voilà comment il faut marcher quand il y a du verglas. Le buste légèrement en avant. Les mains hors des poches. Jamais comme ça. Hein. Un peu écarté pour l'équilibre. Ok. Comme ça. Les jambes légèrement écartées. Stable sur les appuis. Stable sur les appuis. Regardez la stabilité. Rien ne bouge. Hein, je suis là, vous pouvez me pousser. Le centre de gravité, il est là. C'est comme en MMA. Pied en V vers l'extérieur. Et là, si dans la rue, on voit marcher comme ça dans les prochains jours, là, c'est un signe de ralliement, ça voulait. Ça veut dire que vous étiez sur ce stream. Avancez le pied à plat en traînant la semelle. Comme ça. Voilà. Je vous fais une démo.
Emran Normal, j'ai un OnlyFans à l'abonnement qui est quasiment donné. En vrai, ça coûte pas cher du tout. N'hésite pas, tu vas te régaler, tu vas te régaler les yeux. C'est la régalade. Tu vas pouvoir te faire plaisir pendant des heures. D'ailleurs, on peut lancer le débat. Hein. Qui parmi les hommes porte des strings ici? Qui a le droit? Lançons le débat. Qui parmi les hommes de cette communauté porte des strings? Mais merde! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il va? Merde, jamais vu ça encore. Incroyable, c'est fou ça. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il fait. Il va le faire, il va poser. Incroyable. Bravo Maltego. C'est beau ce que tu as fait.
Pour ceux qui appellent à ma candidature en 2027, le problème, c'est que je viens de découvrir God of War. J'ai peur que mon agenda présidentiel soit impacté par les nuits que je vais passer sur ce jeu de fou. Ouvrir des cadavres en deux, c'est aussi un programme, c'est aussi une perspective.
Tu peux tester la musique de Zerator, la lèpre? Tu m'intrigues, quelqu'un m'a parlé de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Avant que je commence, je vous préviens, j'étais jeune, un peu con. Un peu vulgaire.
C'est pas du tout la voix de Zerator, ça. Il a mué alors. Mais il a 8 ans là.
Je vous parle d'un temps que les lépreux d'antan ne peuvent plus connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des bouts de bras jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble mollet qui me servait de pied ne payait plus de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, toi qui suçais mon pu. Oh la lèpre. Oh la lèpre, ça voulait dire j'ai perdu mes yeux. Oh la lèpre, oh la lèpre, nous ne mangions qu'une main sur deux. Je vous parle d'une position que les filles de 20 ans en général connaissent.
À quoi ?
Montmartre en ce temps-là.
Quoi ?
Criait, oui, fourre-la-moi jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble joli qui couchait dans mon lit ne suçait pas la pine.
Quoi ?
C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, j'en explosais ton cul. La...
Il a changé Zerator. Ça n'est pas le Zerator que je connais, moi. Merci la commune de m'avoir fait découvrir cette chanson.
C'est Zerator, ça? Il a changé, Adrien.
On va peut-être pas tout écouter.
Encore une sauce.
Waouh!
C'est du...
Trop facile.
Bien joué, ça, le fan.
Bandit, tu es prête?
Ça a pris une pété. Etienne, attention.
Moi j'avais la Sage toujours avec moi là.
Vous ne tuerez pas mes alliés.
J'entends toujours du bruit en A là.
Ça court sur A.
Ah la fantôme. Ah
non. Adieu. Louis.
le pentakill.
C'est quoi un ace?
C'est un pentakill. Parce que
ce n'est pas un mec. Je m'envoie un message. Je vais demander à Lucie de
pour
faire un clip. Ça n'arrive pas souvent, hein.
Mais tu t'en es rendu compte au moins?
Non, non, bah non.
Ah bah non.
Vous me connaissez quand même.
Des souvenirs.
Alors il y a beaucoup de gens qui demandent, c'est qui parlent de jeux et tout. Au début, ça va toujours être de la revue de presse, etc. Il y aura peut-être des trucs.
T'as vu? Déjà à l'époque, les gens disaient vas-y Samuel le gaming, et moi je dis sûrement pas. Rayou a eu raison avec 3 ans d'avance. Parce que, en fait, je commence à jouer 3 ans après ce stream.
En fait, ce serait gênant de te mettre dedans sur un truc que tu connais pas.
T'imagines, tu dis au Rayou de 2020, dans 5 ans, ce mec va passer ses nuits sur Valo, sur LOL, sur Skyrim, et que sais-je.
Oh,
tu lui dis ça. Il te dit impossible. Tu sais, avec le ton de Rayou, il dit impossible.
J'ai aucune expérience des jeux d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'à un moment, ouais, Among Us, ouais, Skyrim, oui, je vois, j'ai entendu parler de tout ça, mais genre,
en
vrai.
En 2020, il y a des gars dans le chat qui me disent un petit Skyrim pour les dragons. Il y a 5 ans, la prophétie.
Les streams de revue de presse, ce sera, je sais pas, selon la journée, selon.
Attends, elle est incroyable cette image. C'est Samuel qui réacte. Samuel. Qui réacte Samuel? Inception. Ce qui serait bien, c'est que Mathieu mette... Mathieu, ce qui serait formidable, c'est que tu mettes cette scène dans le prochain best-of. Et là, on aura Sam. Qui réacte Sam? Ce qui aurait été formidable, c'est que avec Étoile, on diffuse un truc de moi, genre une question pour un champion. Mathieu, c'est ta mission.
Les besoins de la petite famille derrière aussi, ce sera de une demi-heure à une heure.
Ah, l'innocent, incroyable. On fera des petits streams. Non, parce que j'ai des trucs moi à côté. J'ai une vie en fait. J'ai un travail, j'ai une famille. Non, on fera des streams d'une demi-heure, d'une heure. C'est tellement drôle.
T'as des petits créneaux, ça peut être une heure et demie, mais voilà.
Mais oui, une heure et demie, mais oui.
En fait.
Monsieur Etienne, vous n'êtes pas dans les couloirs.
Il est fort le Mathieu. Alors ça. Le Sam en EHPAD, ça, il n'y a aucun respect dans cette équipe. Mais c'est très très drôle, notamment le Sam d'il y a 5 ans qui dit peut-être, ouais, et pourquoi je ne me mettrais pas à streamer. Mais par contre, je suis un peu busy, on fera des petits streams. Allez, une demi-heure genre. une demi-heure, c'est l'intro maintenant ici. Une demi-heure, une heure. Le gaming, non, vous croyez gaming, non. Waouh. C'était il y a 5 ans, c'était hier. Où serais-je demain? Demain, le monde. Voilà, quelques minutes après, 5 heures du mat, Wi-Fi, exactement. Où serais-je demain? Ok. Samuel, à quelle cadence tu changes tes slips plus vite que l'éclair? Je suis un changeur de slip, moi. Moi, j'ai pas le temps d'ébilvesé, moi, des flagorneries. Hein. J'ai pas le temps de dispersion, moi. Faut changer un slip, tu vois. En mode pompier, je saute dedans moi. Sur cette parenthèse, maintenant on va actualiser le Nightbot. Hop, puisque il n'est pas actualisé pour le 64e. Bienvenue Samuel. Je suis où là? Je suis sur le truc de musique. Mais je veux pas YouTube musique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Samuel, je cherche ma propre chaîne. Samuel Tien VOD. C'est moi là. 183. Ok, c'est bon, c'est moi. Ce jeu est ok. Il est où le best-of 64? Voilà. Ava, je l'adore Ava. Ok, Nightbot, où es-tu mon ami? Je viens d'arriver, déjà 30 minutes. Me dit Yélès, je suppose que c'est la fin du stream. Oh, c'est trop mignon. Pourquoi j'ai que des pubs de recrutement de l'armée? Je sais pas, d'artichaut, il se m'occupe pas de ça, moi. Ok, best-of 64. Parce que la France a besoin de toi. Hop. Ok, best of 64, normalement. Update. Timer, c'est ok. Et pour la commande, le best of, il est là. Et on passe du 63-64 jusqu'ici, tout est logique. Bim. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, si vous faites point d'exclamation B-E-S-T-O-F, best of dans le chat, qu'est-ce que vous avez? C'est incroyable, c'est magique. Hop, vous avez un best of. Bim, que j'épingle.
Voilà.
Ah. Je m'occupe seulement du réarmement démographique. Ah oui. Ah oui, alors moi je suis pas pour. Je ne m'occupe pas du recrutement militaire, hein, pour l'heure, mais je m'occupe du réarmement démographique de notre pays, parce qu'à un moment, il va bien falloir que quelqu'un pour payer les retraites. Hein. Donc je m'occupe de ça. Tibay, merci beaucoup pour le 53e mois. Bah de rien. Je suis super content pour toi. Régale-toi. Merci Edo Tensei. Merci encore, jeune Mako. Et on est très heureux. Ouais là, là sur Twitch, entre l'armée et Franck Leboeuf, ça devient chiant de passer d'un stream à l'autre. Sachant, Mikos Mirazin, qu'une fois que tu t'es pris la pub de pré-roll ici, celle que tu ne peux pas enlever, celle qu'aucun streamer, streameuse ne peut t'enlever, la pub de pré-roll, enfin sauf si t'es abonné, je pense que t'as pas la pub de pré-roll. Et bien après c'est fini, hein, parce que ici il y a zéro pub, j'ai enlevé toutes les pubs, toutes celles que je pouvais enlever, chut, à la poubelle, hop. Vous savez combien vaut votre voiture? Non, je sais pas. Pourquoi vous me demandez ça? Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Non, je sais pas. Non, non, je veux pas savoir. Je sais pas, doit valoir. Ma voiture doit valoir 9000 balles à peu près aujourd'hui. Je pense, par rapport au prix où je l'ai acheté. Donc non, pourquoi cette question? Donc voilà, zéro pub ici. Hop! Tu peux enlever le pré-roll si tu mets 3 minutes par heure, je crois. Il paraît que non. Il paraît qu'en fait, il faut mettre plus que ça dans la réalité. Donc du coup, moi, j'ai préféré... ici, vous tapez le pré-roll et après, c'est terminé. Oui, le pré-roll, ça se retient, mais du coup, ça met des pubs durant le live. C'est bien ce que je vous dis. C'est pour ça que j'enlève pas le pré-roll. En plus, le pré-roll, est-ce que c'est 3 minutes? Ça, ce serait vraiment abusé de la part de Twitch. Et sans compter que le... C'est long, 3 minutes. Hein. Est-ce que le pré-roll, c'est 3 minutes? Parce que si c'est moins le pré-roll que 3 minutes, à mon avis, c'est moins, bah, autant pas mettre les 3 minutes par heure. Hein. Le pré-roll, c'est 30 secondes max? Bah alors. Qu'est-ce que vous me racontez? Les gens qui disent, mais t'as qu'à mettre 3 minutes de pub par heure, ça te va t'enlever le pré-roll. Donc t'es en train de me dire qu'il vaut mieux 3 minutes par heure que 30 secondes. Quelle indignité! Mais tu choisis quand on met tes 3 minutes, là, et la différence. Ouais, tout ça, je sais pourquoi vous faites ça. Hein. Vous voulez, parce que vous voulez que je me fasse de la thune. Hein. Voilà, c'est ce que dit Diesel. Nous, on veut que tu sois blindé pour mettre Hélène et les enfants à l'abri. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous faites. Hein. Vous voulez que je me fasse de la moula. Vous voulez que je m'en mette plein les poches. Hein, c'est ça. Je vous connais. Business is business. Pas chez Trump ici. Hein. Plein les fouilles. Prends ta thune. Non, j'aime bien l'idée de que le pré-roll, c'est cool, ça marche bien comme ça. Bon, bon, on va peut-être y aller, hein, 32 minutes d'intro là. Hein, let's go. Bonjour Samuel, on souhaite que tu te fasses de la moula cordialement. Tu nous donnes tellement de bonheur, tu mérites notre argent. Ils essayent, hein, ça essaye. Hein. 28% Ubisoft. Camille me dit, oh my god, Ubisoft est très mal, moins 28% à la bourse, tu as un article dessus, je suppose. Alors, écoute, je n'ai pas un article sur la chute vertigineuse du cours de bourse, parce que je suis content, moi j'en ai du Ubisoft. Moins 28%, putain, c'est pas possible, c'est un enfer quand même. Je n'en ai pas, et pour cause, je pense que tu parles du cours de actuel. Par contre, regarde, je te montre le sommaire d'aujourd'hui, prévu de nous parler d'Ubisoft, avec justement ce qui doit sans doute expliquer cette chute en bourse, la nouvelle organisation de l'entreprise. Ubisoft tente de se relancer. Donc ça, c'était le titre que j'ai prévu de vous faire. C'est un titre dans le Figaro. Il y a un monde où c'est Ubisoft n'arrive pas à se relancer, quoi. D'après ce que tu me dis. Et Sugar me dit, les grands esprits se rencontrent. Dans le Figaro, il y a un article sur Ubisoft. Bim ! Moins 28%. Eh ben, nom de Dieu. Eh ben, nom de Dieu. Merci, Eva. Donuts. C'est bon, les donuts. Les donuts sucrés au sucre. C'est surtout que Ubisoft a annulé si je pop 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 pop. D'accord. Moins 28% faut acheter. Ouais, j'en ai du Ubisoft, moi je peux dire c'est pas mon meilleur investissement. Pop pop pop. Moins 36%. Allez, ben oui, mais qui dit mieux? Bientôt ils vont nous payer pour qu'on achète du Ubisoft, hein. Et même là on n'en voudra pas. Ouais, c'est triste. Ok, j'ai dit qui dit mieux, il y a Sir Bone Cloud qui vient dire mieux. Ok, d'accord. Ouais, je pensais faire une BA. Moi. Je pensais faire une BA, moi, quand j'ai acheté du Ubisoft il y a longtemps. Je peux te dire que. Waouh. Je me dis, c'est bien d'acheter français aussi. Hein, le champion français du jeu vidéo. Allez, Samuel. Fais une BA avec ta moula, là. Merci, quoi. Bonne idée encore. Merci, Renard de Nuit, pour le 10e mois. Merci, Duke Star, pour le 10e mois. Ça compense pas, mais bon. Oh, pardon. Oh, toi, le richou. Ah. Ah. Fallait prendre des ETF, Sam. Oh, ça va, les conseils. Hein. Ça va, Étienne. Hein. Ça remontera quand Tencent va les racheter. Ouais, bon, moi, je vais garder, alors. Les Chinois qui sont en capital, déjà. Bon, trêve de bilvesée, trêve de bêtises tout court. Allons bosser un petit peu. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud pour un sommaire, pour commencer? Et on en reparlera tout à l'heure, puisque c'est dans le sommaire, vous l'avez vu. Il est où mon petit cordon Il est là. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Vous êtes... Ok, je vois du yes baby. Ça me fait plaisir. J'aime quand vous êtes chaud comme la braise. Vous êtes bouillant? Oh là là, ils sont bouillants. Caliente! Vous avez déjà un petit aperçu là. Désolé, j'ai pas streamé hier soir encore. Attends, je vais baisser le chauffage. Je suis désolé. Hein. Ça arrête pas de bosser en ce moment. J'ai bossé hier soir, mais pas sur Valo. Les projets, les dossiers, les mails, les trucs, je suis désolé. Hein. J'ai envie. Et voilà. Non, pas... non, j'étais pas sur Archero 2. Non, j'étais vraiment, ça taffe, quoi. Pff. Voilà, mais bon, je vais essayer ce soir. Petit Valo ce soir. Ah, cool, me dit Fabricado, on va enfin parler de Trump aujourd'hui, ça fait longtemps, hâte de voir ce qu'il raconte. C'est vrai qu'en ce moment, on n'en parle pas trop. Ok, c'est parti. Je vous mets ça. Vous l'avez. Bim. Ubisoft, tiens, je vais en parler. C'est là. Pap, je vous mets sur l'actu du jour. Let's go. Ok. Merci, Moms, pour ta proposition. Revue de presse mensuelle sur l'actu scientifique avec des invités et tout. Putain, la super production. Là, vas-y. Ça, c'est du taf encore, ça. Ok. Pas de poker à you ? Non. Non, je t'avoue que je n'ai pas bien suivi cette actualité. Allez, let's go. Bim, sommaire, on y est. Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans la matinée Étienne. J'ai pris ma voix sage, ça fait une demi-heure que je suis en intro sur Twitch et je raconte n'importe quoi. Il est 9h52, mais vous m'écouterez peut-être en replay. On est le jeudi 22 janvier 2026. C'est la matinée Étienne comme tous les matins, c'est un rendez-vous tous les matins. Voilà. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du verglas. Hein, en la matière, j'ai des conseils à vous donner d'ailleurs, parce qu'il y a une façon de marcher dans la rue pour éviter de glisser, mais c'est une autre histoire. Voilà. Malade, pas malade, de toute façon, je ne peux pas filer mes virus, je suis tout seul dans cette pièce. La revue de presse tous les matins, du lundi au vendredi. Il y a même une revue de presse des bonnes nouvelles le samedi, en général le samedi après-midi. Bon, sachant que cette semaine, je n'ai pas encore trouvé trop de bonnes nouvelles. Alors. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? On va commencer par le sommaire, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, je vais vous donner l'essentiel de l'actu de ce jeudi, pour ceux qui n'ont pas 2-3 heures à me consacrer. Il a dit « bim, sommaire », me dit Lucky 13, j'ai compris « bim, sa mère ». Non, ce n'est pas tout à fait la même idée. De quoi on parle ce matin? Comme tous les jours depuis un certain temps, de Monsieur Trump et des dernières nouvelles le concernant. Alors, donc là, avant Davos en Suisse... Hein, le sommet des powerful people, il était en mode, vous allez voir ce que vous allez voir les Européens. Ah ouais, tu veux pas que je prenne le Groenland? Eh ben tu vas te prendre l'armée américaine sur la gueule mon cochon. Hein? Ah ouais, tu veux pas rejoindre mon conseil de paix là, qui remplace l'ONU à $1 milliard l'entrée là, pour un siège permanent? Tu vas voir monsieur Macron là, le petit Manu là, tu vas voir les taxes sur le champagne et sur le vin. Eh ben il s'est calmé. Eh ben, il s'est calmé, je sais pas ce qu'il lui a pris. Finalement, à Davos, il a prononcé un discours surréaliste, comme d'habitude. Et puis il a dit, non, finalement, je pourrais envoyer l'armée, hein, mais je vais pas le faire. Mais je pourrais. Mais je vais pas le faire. Mais je pourrais. mais je vais pas le faire. Mais je pourrais. Je vais pas le faire, ok. Et puis et finalement les taxes commerciales là. Les taxes commerciales là, je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Les taxes commerciales, les nouvelles là, je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Bon, enfin, du Trump quoi. Donc pour, alors il a une petite reculade. Pourquoi? Comment? Voilà. Est-ce que c'est un lien avec la chute des bourses par exemple et de Wall Street? Voilà, ça commence à dégringoler. Est-ce qu'il a pris peur devant un début de mobilisation européenne? Bon, on va voir ça. Article dans Libération pour faire le point là-dessus. Un petit peu d'actu en France. Bon, c'est pas le truc le plus sexy dans l'actu, mais à un moment, il faut quand même vous en parler. Après des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, de débats au Parlement sur le budget, eh bien, on sait à peu près ce qu'il y a dans le budget 2026. Vous allez me dire, Samuel, il est 22 janvier, il serait temps qu'on ait un budget. On est un petit peu à la bourre. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour voter le budget. Et donc, ça prend du temps. C'est le bordel. Il y aura 49-3. Finalement, a priori, 49-3 parce que ce projet de budget ne sera pas censuré par notamment les socialistes et une partie des élus LR. Les socialistes ayant obtenu, je vous le résume, des garanties du gouvernement. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget? Eh bien, on le verra. Le Premier ministre dit que c'est un meilleur budget. Que quoi? Bah, que le budget que le gouvernement a proposé. Alors, le Monde s'est dit, c'est vrai ça? C'est un meilleur budget? Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop, article. Faut-il, troisième sujet, boycotter la Coupe du Monde de football aux États-Unis et aussi au Canada, au Mexique, mais aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que ces articles? Ce matin, il y en a de plus en plus sur la petite musique d'un boycott dont parle le Parisien. Question dans la croix. Est-ce que le boycott de la Coupe du Monde de football est la bonne stratégie face à Trump? Voilà, édito dans la croix, boycott, sport et politique. Donc l'idée, c'est, au vu de ce qui se passe aux États-Unis, au vu de ce que fait Trump, l'hôte de cette Coupe du Monde, est-ce qu'il faut parler de ce sujet comme on a parlé du boycott, notamment sur cette chaîne, lors de la dernière édition du Mondial, qui était où déjà? Merde. C'était où le dernier Mondial? Je suis un gros footix, moi. C'était Qatar? Voilà. Est-ce qu'il faut avoir ce débat? Et vous verrez que la Croix a une position intéressante qui est de dire « Oui, il faut en parler. Oui, il faut en parler d'un éventuel boycott. » Voilà. Tout en disant « Il n'y a aucune chance que ça arrive. Hein? Il n'y a aucune chance que ça arrive, qu'il y ait suffisamment de pays qui disent « On n'y va pas. » Il n'y a aucune chance que ce débat sur le boycott ait une incidence, en fait, sur le Mondial. » Et tout en disant ça, la Croix dit « Il faut en parler. » Parce qu'en parlant de ce boycott, on parle des problèmes que posent aujourd'hui les États-Unis. Et c'était un peu ma position aussi sur la Coupe du Monde précédente au Qatar, puisque vous savez ici qu'on a fait un boycott qui n'a aucun intérêt. Hein. Ici, sur cette chaîne, on n'a donné aucun résultat des matchs de la Coupe du Monde, parce qu'on estimait que ce mondial était problématique sur le droit de l'homme, droit des femmes, droit des minorités, conditions dans lesquelles les stades avaient été construits. Avec la mort de très nombreux ouvriers, la question environnementale aussi. Donc, on avait fait un truc totalement symbolique, qui évidemment n'a aucune incidence sur le mondial. On avait boycotté les résultats de la Coupe du Monde ici. Ce que certains n'avaient pas très bien compris d'ailleurs. Évidemment, ça ne sert à rien. Hein, mais c'est une façon d'en parler, en fait. Hein, c'est totalement symbolique. Donc la question, c'est bah, est-ce qu'on a de nouveau ce débat, mais cette fois pour les États-Unis. Ok ? On en parlera. Oh, vachement intéressant. Les études dans le Monde. De temps en temps, dans le Monde, il y a des pages qu'on appelle les pages Le Monde Campus. C'est des articles sur les études supérieures. Qu'est-ce qu'il aime bien comme formation, comment se passe aussi le marché de l'emploi. Et là, je trouve une interview d'un sociologue que je trouve passionnante. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail qui disent « Mais les gars, mais au vu de mon parcours, quoi, je me suis arraché, pardon, passez-moi l'expression, hein. Je sais qu'il y a des enseignants qui passent parfois cette revue de presse à leurs élèves, messieurs et madame les professeurs, je m'excuse. Des étudiants qui se sont parfois arrachés le cul pour faire un joli parcours étudiant, quoi, et ça arrive sur le marché du travail, il n'y a pas de taf. Ou alors il n'y a pas de taf qui correspond à ma formation ou à mes efforts, tu vois, c'est le bordel. Eh bien, il y a un sociologue qui analyse ça. Les études sont moins rentables qu'autrefois. C'est-à-dire qu'en gros, à études comparables, voire mieux, bah, le retour sur investissement en termes de taf, il est moins bien, d'accord ? Et en même temps, elles sont plus indispensables encore qu'avant. Pourquoi plus indispensables ? Parce que malgré tout, le diplôme continue à protéger du chômage. C'est-à-dire que malgré tout, le diplôme est une super garantie contre le chômage.
Ouais. Ouais.
Donc moins rentable, mais tout aussi indispensable, voire plus indispensable. Donc je trouve le papier passionnant. Voilà. Mais je pense que ça va mettre de la lumière sur plein de questions que vous posez sur le sujet. Ouais, je vois vos commentaires dans le chat qui confirment, hein, cette situation. Clara Rambeau me dit, j'ai des amis ingénieurs, des diplômés de... Hop, de quoi tu disais ? De 5 ans de Sciences Po qui ne trouvent pas de taf. Voilà. Voilà. Titulaire d'un bac plus 5 pour être hôte de caisse présent, me dit Patatine. Voilà. C'est quoi le journal ? C'est Le Monde. Page 3 du dossier Campus. Voilà, donc on lira ce sujet. Et puis... Alors moi, je suis au carrefour de ça. Je suis entre les anciens médias et les nouveaux. Je me promène entre les deux, vous savez. Beaucoup travaillé en radio, en télé, tout ça. Puis maintenant, je suis plus intéressé par les plateformes, les nouveaux outils de communication, de création de contenu. Vous le savez. Ben, y a un dossier dans Les Échos là-dessus. Hein, sur, qui aurait pu le prévoir ? Quelle surprise gigantesque ! La télévision historique de plus en plus concurrencée par le streaming et le web. Ah bon ? Bon, ça, c'est incroyable. Donc non, en vrai, c'est le dernier constat, les derniers chiffres. En 2025, le temps passé sur Internet dépasse celui devant la télévision. Alors, c'est la première fois que ça dépasse. La radio, ça fonctionne encore, non ? Non. Les audiences sont globalement... Si tu prends globalement les audiences de la radio, c'est en chute. Les chaînes traditionnelles s'adaptent en renforçant le plateforme de streaming et en nouant des partenariats stratégiques. Les télés ne restent pas immobiles. Elles flippent depuis des années déjà et elles se demandent comment on va faire, comment on va prendre ce virage qui est très compliqué. Donc, ça tente des trucs. Voilà, il y a des pistes qui sont empruntées, qui commencent un peu à marchoter. Et on est en pleine recomposition de cet univers. Et c'est assez passionnant. Voilà. Par exemple, vous avez France Télévisions qui se réorganise pour accélérer son virage numérique. Je lirai ce papier dans Les Échos avec intérêt, parce qu'il y a quelques jours, on a lu un papier sur la réorganisation numérique de France Télévisions, avec une déclaration de sa patronne en mode « vous allez voir ce que vous allez voir ». 60%, un truc comme ça, 60% des moyens humains de France Télévisions maintenant, ça va être full numérique. Le France Télévisions de demain, ça va être sur les plateformes, ça va être sur les réseaux. Donc, on a lu l'article et pour voir ce qui allait se passer, et ben on n'a rien compris. Rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un seul exemple concret, quoi. Voilà. Alors, j'ai bien compris, c'est parce que c'est notre projet, tu vois. Mais j'ai pas compris ce qu'il y avait dedans. Alors donc on lira ce papier dans Les Échos en espérant comprendre un peu mieux, parce que pour l'instant j'y vois pas très clair. Voilà. Je vois qu'il y a eu une réorganisation. D'ailleurs, il y a eu l'ancien directeur de l'information de France Télévisions qui a été viré. Pardon. Non, qui a été à qui on a proposé une nouvelle aventure professionnelle au sein du groupe. Et je crois que justement on lui a proposé un poste en lien avec ça, avec le numérique. Il s'appelle Cara, Alexandre, je crois. Alexandre Cara. Donc, on ira voir. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui a beaucoup de compétences sur le numérique, puisque, d'après ce que j'ai compris, son nouveau poste, c'est ça. Voilà, c'est sûrement quelqu'un de très capé sur ces sujets. Voilà. Ou pas du tout. Parce qu'on ira voir. Et un dernier papier. Sur Ubisoft. Ubisoft qui, d'après les viewers, me disait tout à l'heure en début de chat. C'est intéressant ce que dit Eva, je vais te lire dans un instant. Dégringolait en bourse, et justement, il y avait un papier ce matin dans le Figaro sur la nouvelle réorganisation d'Ubisoft. Et manifestement, il y a un lien entre cette nouvelle réorganisation et le titre qui dégringole en bourse à l'heure où on parle là, hein, ce matin. Et sans doute aussi les annonces avec l'abandon de plusieurs jeux, quoi. Eva me parlait justement de la télé et me disait, j'ai trouvé ça intéressant ce que Dwagby avait dit sur la télé, que ça l'avait déçu, mais que c'était surtout dû au fait que la télé ne sait plus ou ne veut pas avoir de nouvelle audience, et donc ils font copier-coller H24, se renouvellent pas ou comme il faut. Dwag, justement, c'est pas quelqu'un qui a fait 2-3 trucs avec France Télévisions. Justement, donc ça veut dire qu'il serait déçu de cette expérience ? Il n'avait pas participé au JO sur la chaîne numérique de France Télévisions, un truc comme ça. Il n'y a pas un truc comme ça. Ça voudrait dire qu'il n'a pas trouvé ça. Non, je me trompe. Doit que je faisais pas partie de ce truc-là. Non, il y a eu... il y avait Rive, ouais. Ah, c'était Rive. Il a fait les traîtres sur M6. Ok. Doig, il a eu zéro deal avec France Télévisions. D'accord. Je confonds avec Rive alors. Rive, je sais, ouais. Ok. Ok, ok. Mais du coup, quand il dit qu'il est déçu de son expérience avec France Télévisions, enfin, avec la télé, il parle de quoi? Parce que bon, les traîtres sur M6, c'est pas l'alpha et l'oméga de la télé quand même. Ou peut-être que c'est un constat juste extérieur comme ça. Parce que pour être déçu de la télé, il faut en avoir fait quand même. Pour le coup. En tant que consommateur, ah ok. En fait, j'avais cru comprendre dans le message d'Eva qu'il parlait de son expérience de participant. Quoi. J'ai trouvé intéressant ce que Dwagby avait dit sur la télé, que ça l'avait déçu. Ouais, ok. Il a fait Dals. Il a fait Dalsy. Il a fait Dalsy. Mais ouais, vous avez Dals, Dalsy, je pense que vous avez la ref, vous voyez la petite différence. Dalsy, c'était l'édition unique qui avait eu, qui était super réussie d'ailleurs, qui avait été diffusée à la fois sur TF1 et sur, est-ce que c'était YouTube ou Twitch, ça commence à vieillir. Il y avait une édition et Dals, c'est l'émission de télé qui est sur TF1 et qui n'est que sur TF1. Dwagby parlait de la post-production qui déforme constamment les propos de ce qui se passe réellement, dit Julien. Ok, c'est intéressant. Il avait aussi une émission sur Bein Sport. Oh putain, j'avais pas la ref. Merci Splax. C'était trop bien Dalsy, ouais. Carrément. Il disait que la télé faisait pas plus d'efforts que ça pour se renouveler. Bah en fait, c'est compliqué. On en parlera, mais c'est compliqué parce qu'il y a de grosses pesanteurs. C'est que quand tu as appris à travailler d'une certaine manière, il y a des process en télévision, des façons de travailler, des structures qui sont parfois un peu lourdes. Hein, puisque pour fabriquer de la télé, il faut encore beaucoup de moyens, et il y a des process, et puis il y a des hiérarchies, il y a des pesanteurs, ce qui fait que même quand dans des, moi c'est ma théorie, même quand dans des groupes, des chaînes comme ça, il y a des gens qui ont bien compris qu'il fallait changer les choses, voire même qui avaient bien compris ce qu'il fallait faire, mais le problème c'est que ces gens sont pas très très nombreux, et ils doivent surtout convaincre tout le reste de l'entreprise et du groupe, et c'est là où ça devient compliqué. Voilà. Je pense que c'est ça. Doit parler de l'émission Les Traîtres. D'accord. Ah oui, il a été déçu des traîtres. Okay. Voilà. C'est compliqué, c'est comme un pétrolier à bouger, quoi. Mais je comprends ce qu'il dit. Allez, let's go. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le premier sujet de ce matin? En tout cas, je trouve qu'on a un petit programme assez intéressant ce matin. France TV va tenter un truc pour les JO suite au GPE avec Rivenzi et Poney avec un live minute tweet. Non, ils ont tenté. C'était au dernier JO déjà. Hein? Rive a bossé pour France Télévisions au dernier JO déjà. C'est fait. Après, ils veulent peut-être refaire autre chose. Ok, on y va? Allez, premier sujet. Trump. Bim. Le recul. Point d'interrogation. Ai-je mis. Hein, puisque avec Trump... Non, ça a été annoncé récemment. Donc il remet ça alors. D'accord. Et il remet ça. Mais il a déjà fait avec France Télé. Ah, les JO d'hiver. Bon, bah il continue quoi. Ok. Alors, Trump recule. Point d'interrogation. Hein. Point d'interrogation. Lisons cet article de Sonia Delesalle-Stolpe dans Libération qui résume un peu et qui est bien écrit. On en est là. Soulagé. Donald Trump a renoncé à envahir militairement le Groenland. Alors moi, j'ai envie de rajouter provisoirement pour être bien prudent. À envahir militairement le Groenland, territoire du Danemark, pays allié, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, quelques heures après ce début d'apaisement, le président américain allait encore plus loin en annonçant renoncer à imposer des droits de douane supplémentaires au 1er février. Bah attendez, comment on est passé en 24 heures de... vous allez vous prendre les soldats américains sur la gueule et vous allez vous prendre des taxes commerciales si vous ne me laissez pas Groenland, à ça. C'est de la même personne, hein, c'est pas deux personnes différentes. Il suffit de prendre ces déclarations. Ça, j'ai pas compris encore. Alors, Inanna dit, bah, c'est simple, on l'a menacé en retour. Voilà. Le pilier de barre dit, c'est les lunettes de Macron. Les chocolats suisses ? Je sais pas. On va essayer de comprendre. Des déclarations qui interviennent après une intervention. Alors là, on en parle de son discours à Davos, en Suisse, justement, hein, le sommet des puissants de ce monde. Une intervention décousue. Ah bon ? Insensée. Ah bon ? D'un homme, Trump, 47e président des États-Unis. Les gens pensaient que j'utiliserais. Alors oui, parce que on le cite, hein, c'est, toujours... c'est la régalade. Les gens pensaient que j'utiliserais la force. Non, les gens pensaient rien. C'est toi qui l'a dit 3 ou 4 fois ou 10 fois que c'était une option sur la table. C'est pas les gens, c'est tout. Donald. If I may. May I. C'est... Non, les gens pensaient rien. C'est toi qui parle de ça. Les gens pensaient que j'utiliserais la force. Je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je pourrais utiliser la force, mais je n'utiliserai pas la force. Je peux utiliser la force. Je pourrais utiliser la force. Mais je ne vais pas utiliser la force. Mais en fait, tais-toi, en fait. Mais rien, alors, en fait. J'adore. Avant d'exiger l'ouverture, alors, comme du coup, il dit, ben, je ne vais pas utiliser la force, donc il faut être cool avec moi. Avant d'exiger l'ouverture de négociations immédiates pour obtenir le transfert du titre de propriété de ce territoire aux États-Unis. Le titre de propriété. Le gars, c'est un notaire, c'est un agent immobilier. Bon, alors, à l'origine, d'ailleurs, c'est un spécialiste de l'immobilier, quoi. Le titre de propriété. Hein. Donc, maître... maître Ledoux. Donc, rendez-vous jeudi 8, hein, en votre étude, pour signer le transfert du titre de propriété du Groenland aux États-Unis. Ben, le titre de propriété, quoi. Quel bonheur. Tout ce que je demande... Alors, mais... C'est affreux, c'est crescendo. C'est-à-dire que dès qu'il parle, on est dans une autre dimension. La suite. Tout ce que je demande, a-t-il déclaré, c'est son discours, hein. C'est pas un sketch, c'est pas un sketch d'humoriste. Tout ce que je demande, c'est un morceau de glace, froid et isolé. Le mec veut un glaçon dans son whisky, quoi. Tout ce que je demande, c'est un morceau de glace froid et isolé. Dit-il avant de se montrer menaçant, vous avez deux choix. Vous pouvez dire oui, et nous nous montrerons très reconnaissants. Vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons. C'est un bully. C'est le bully en école primaire, pas très bien dans sa peau, et qui dit « Mais tu me donnes ton goûter ? Mais tu vas me donner ton goûter ? Si tu me donnes ton goûter, je vais être très reconnaissant. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas te taper. Et si tu ne me donnes pas ton goûter, mais ça ne va pas bien se passer. C'est le bully de l'école primaire. Ouais. Pandaro écrit, donne-moi ton Kinder Pingui. Oui. Donne-moi ton Kinder Pingui. C'est ça. On n'est même pas dans l'analyse, on ne fait que lire ce que dit Trump. Voilà. C'est comme quand il écrit à la Norvège, pas au Danemark, hein. C'est comme quand il écrit à la Norvège au Premier ministre norvégien, on pensait que c'était un fake, tellement c'était dingue, et en fait c'était vrai, hein, puisque le mail, le document a été authentifié. C'est comme quand il dit, alors vous n'avez pas voulu me donner le prix Nobel de la paix, confondant le gouvernement norvégien avec le comité Nobel qui est installé en Norvège. Vous n'avez pas voulu me donner le prix Nobel de la paix. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi. Moi, je ferai des efforts pour la paix. Réel. C'est écrit. C'est un truc de la Maison Blanche. Qu'est-ce que vous voulez... Exactement comme le chat le dit. Comment voulez-vous que South Park ou le Gorafi trouvent des histoires à nous raconter ? Le mec est trop fort. Il va trop loin. Il va trop loin, il va beaucoup trop loin. Qu'est-ce que tu veux inventer sur ce gars ? Tu peux rien inventer. Il est plus fort que tous les délires que tu peux inventer. Les très sérieux et nettement plus articulés participants, membres des élites économiques et politiques du monde, donc c'est Davos, au Forum économique mondial de Davos, étaient venus nombreux pour écouter. La salle était pleine. Faut dire que c'est un one man, hein, je veux dire, tout le monde n'a pas son ticket. Hein. Nombreux pour écouter ce qui était anticipé comme le discours phare de la semaine dans la station UP des Alpes Suisses. L'auditorium de 1300 places était plein à craquer et 4 salles de retransmission supplémentaires avaient été ouvertes pour répondre à l'affluence. C'est le show. Pourtant, l'atmosphère dans la salle est restée glaciale. Et pas seulement parce que Donald Trump a évoqué le Groenland avec son habituel mépris, ce n'est qu'un gros morceau de glace, ou le Danemark, ce tout petit pays, hein, le mépris habituel, qu'il a régulièrement confondu avec l'Islande. Ouais, faites pas chier, l'Islande, le Danemark, c'est par là et il fait froid. Pas seulement non plus parce que le président américain a réitéré pour la énième fois son indignation face à l'OTAN qui n'a jamais rien fait pour les États-Unis, dit-il, propos insultants accueillis par quelques protestations étouffées dans la mesure où l'article 5, qui déclenche la solidarité des États membres en cas d'attaque contre l'un d'entre eux, n'a été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire de l'OTAN, et c'était lors des attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. L'assistance. Bon, allez, donc l'assistance, c'est... comme le dit Libé, les élites politiques, économiques du monde, quoi. C'est les puissants. L'assistance est restée statique, sonnée, atterrée par l'inanité d'un discours pourtant répété mille fois depuis un an et un jour qu'il trône à la Maison Blanche. Un an et un jour. Les saillies insultantes, arrogantes, vulgaires ou carrément fausses, et jamais le dernier pour inventer une information, hein, n'ont recueilli ni applaudissements ni rire, ni... si ce n'est ceux de la délégation laquais américaine installée au premier rang. « Je ne veux insulter personne », a dit à un moment le président américain. « Je ne veux insulter personne », a dit à un moment un président américain, provoquant un unique ricanement, l'ambiance était glaciale, dans la salle silencieuse. Il venait d'insulter copieusement le Danemark, le Groenland, le Canada, l'OTAN, et aussi Emmanuel Macron raillé pour avoir joué au dur à cuire avec ses belles lunettes de soleil. Porté de fait en raison d'un problème oculaire, rappel Libération, président d'un pays, la France, qui nous a baisé pendant 30 ans. C'est pas Samuel qui se permettrait d'utiliser un tel langage. La France qui nous a baisé pendant 30 ans, ce sont des mots de Trump. Ce sont des mots de Trump. Voilà. Et il l'a répété plusieurs fois, au cas où on n'aurait pas bien entendu. Voilà. Contré immédiatement par un tweet furieux de l'Élysée sur cette question des médicaments, paré d'un énorme fake news. Donald Trump n'a visiblement pas bien digéré les propos d'Emmanuel Macron qui a mis en garde mardi à Davos contre les tentatives américaines inacceptables de subordonner l'Europe. Voilà. Putain, je pensais que tu trollais avant de vraiment lire l'article. Moi aussi, mais moi aussi, parfois, j'ai l'impression de troller moi-même quand je vous lis Trump. Quand je lis les mots de Trump, j'ai l'impression de troller. Et en fait, non, c'est affreux. Tout ça est écrit, déclaré, assumé. Ou ceux de Mark Carney, premier ministre du Canada, autre pays que Trump voudrait annexer, et qui, selon lui, n'existe que grâce aux États-Unis, les Canadiens apprécieront. Et dont le discours remarquable appelant à l'union contre la force brutale, donc on parle du premier ministre canadien, a été salué par une longue ovation debout. Certains ont été applaudis. A priori, pas Trump. Le contraste avec la réception de celui de Donald Trump n'aurait pas pu être plus violent. Interrogé sur l'Ukraine et la Russie, le président de 79 ans a souligné que c'est à l'Europe et à l'OTAN de s'en occuper. Il n'apprécie pas ce qu'on fait. Je parle de l'OTAN, je parle de l'Europe. C'est à eux de s'occuper de l'Ukraine, pas à nous. Les États-Unis sont très loin. Un grand et bel océan nous sépare. Nous n'avons rien à voir avec ça. Avant pourtant d'annoncer qu'il allait rencontrer un peu plus tard dans la journée le président ukrainien Zelensky, lequel se trouvait alors à Kiev, entretien qui pourra avoir lieu jeudi sans avoir été confirmé. Fin de l'article. Seul élément notable de cette énième séance lunaire, les marchés financiers ont réagi positivement, puisque les marchés boursiers s'étaient un peu dégringolés ces derniers jours, ont réagi positivement à la confirmation que la force militaire américaine ne serait finalement pas utilisée pour envahir le Groenland. J'en veux dire, oui, ne serait. On va garder le conditionnel quand même. La veille, en réaction à un autre point presque catastrophique de Trump à la Maison-Blanche, les marchés avaient lourdement chuté. Le gouvernement démocrate californien, Gavin Newsom, présent à Davos, a estimé que la reculade de Trump sur l'option militaire au Groenland était sans doute liée aux déclarations fortes de la veille de Mark Carney. Mark Carney, c'est qui? C'est le premier ministre canadien, c'est ça? Je vérifie avant de vous dire des bêtises. Mark. Ou c'est le patron de l'OTAN, non? C'est le patron de l'OTAN, peut-être. Non, c'est le premier ministre canadien? C'est le premier ministre du Canada. C'est ce monsieur-là, ok. Et non, j'ai la ref, ça n'est pas Paul McCartney. Pas du tout. Voilà. C'est le premier du cas-là, c'est ce monsieur-là. Voilà. Paul McCartney. Elle était bonne. Donc lui, il pense qu'effectivement, ce gouverneur démocrate californien, que ce sont les déclarations fortes des Européens la veille, et aussi la réaction des marchés. En général, c'est marrant, Trump, il n'est jamais insensible à un mouvement des places boursières. Et ces derniers sondages internes aux États-Unis aussi, qui sont très négatifs pour Trump, alors que son opinion publique comprend de moins en moins son agitation à l'extérieur du pays quand la situation économique intérieure ne s'améliore pas comme il l'avait promis. Ni quoi ? C'est pas Paul McCartney, ni Ongle McCartney ? Ongle incarné ? Ongle. Ok, Mélissa, je vois que tu es en forme. Ok, Mélissa, tu es vraiment la queen. Ok, je vous lis un petit peu. Ah oui, le taco. Ah, le fameux taco. C'est pour ça que vous parlez du taco. À chaque fois, j'oublie le taco. Défécateur me rappelle la définition du taco. Taco. Trump always chickens out. Hein? C'est-à-dire que Trump se dégonfle toujours. Hein, c'est une forme de théorème. Comme l'an dernier, par exemple, avec la Chine, quand il y a de la résistance, il lâche l'affaire sur les droits de douane qui sont ses seuls leviers. C'est vrai que là, pour la première fois depuis longtemps, l'Europe commençait à réagir. Et c'est vrai qu'il y a une reculade. Alors qu'on s'est quand même couché sur la question des sanctions commerciales il y a quelques mois. C'est difficile de ne pas lui prêter toute l'attention qu'il réclame, mais ça devrait nous inciter à faire preuve de recul sur ces annonces fanfaronnantes. Je vous lis. Souvent, il y a beaucoup d'informations dans le chat que je trouve parfois très intéressantes. Une espèce de goat. Ketzak, on risque quoi en lui filant une carte du monde et lui dire que s'il arrive à trouver le Groenland sur la carte, il peut l'avoir 100% de chance de miss. Surtout si on prend la bonne perspective, tu sais, de carte, puisque on sait que le Groenland, par exemple, selon la carte que tu utilises, la perspective de carte, tu sais, il n'a pas la même taille. Si tu mets celle qu'il n'a pas l'habitude, là, il peut se tromper, ouais. Il y a un monde où il désigne la France, hein. Ok, le Groenland. Hop, c'est assez pour. Ah non, mais ça, c'est la France, ça. La projection, voilà. Avec la projection Mercator, effectivement, qui donne une impression que le Groenland, c'est immense, alors qu'en fait, pas tant que ça. Mais bon, Trump, il a un Mercator, lui. Mercator qui est belge, dit MMG. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux dire, MMG ? Ça dénonce les Belges encore ici ? Hein, c'est ça ? Vous voulez MMG ? C'est ça ? Le mec. Qu'est-ce que tu as contre les Belges ? Et vraie question, est-ce que le gars qui a pensé les cartes Mercator, est-ce que c'est pas lui aussi qui a inventé le Mercato ? L'arrêt Bosman, tout ça ? Hein ? C'est un passionné de foot ? Je sais, MMG, je déconne. Je sais bien. Et le Merco ? Et le Mercosur ? Ouais. Et peut-être les voitures allemandes aussi. Les fameuses Merco. Ok, j'arrête parce que là, je suis en degré moins 15 de l'humour. Voilà, confirmation que je ne suis pas prêt pour me lancer dans le One Man quand même. Parce que là, je pense que la salle est gênée. Voilà. Merci Poyo Caramello pour le soutien. Merci Renard de Nuit. Merci Duke Star. C'est pas grave, on t'en veut pas. Ouais, moi je m'en veux quand même un petit peu là. Ouais. Il y a Nekoda qui dit on va plutôt faire confiance aux humoristes pour les blagues si ça te dérange pas. Ouais, j'avoue. Je vous jetterai pas la pierre. Merci Stacy. Je vous jetterai pas la pierre sur ce coup-là. Donc voilà où on en est de Trump ce matin. Et puis du coup, on a un petit article dans Libération sur ce qu'aurait pu faire les Européens, mais peut-être que du coup, ils vont peut-être attendre un petit peu, quoi. Face à la pression du président américain, l'UE presque déterminée à l'action. Mon Dieu, vous allez voir ce que vous allez voir. Les 27 devaient se retrouver aujourd'hui, jeudi, pour décider d'une riposte aux droits de douane visant 8 pays européens. Une réunion dont le contenu risque de changer, bien sûr. Merci Spizzana pour ton soutien, pour ton Prime. Ça lâche le Prime, vous êtes gentil, hein. Une réunion dont le contenu risque de changer après que Trump a déclaré mercredi soir, donc il revenait sur sa décision, bien sûr. Je regarde, qu'est-ce qui était prévu? L'article cite notamment le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qu'on a cité tout à l'heure, qui a appelé les dirigeants européens à frapper au visage Trump. La violence ne résout rien. Hein. Oh, t'imagines la scène. Trump en train de faire son discours, en train de raconter des trucs, tout le monde ne comprend rien. Tout. Il y a Tom Cruise là, Emmanuel Macron, avec ses lunettes qui montent. Bam! Tac! Mais ferme ta gueule! Non, non. Voilà, en mode Will Smith, ouais. Non, non, les gars. Non. Oh non, non. Moi, je dis non. Donc, à frapper au visage. Trump, le seul langage qu'il comprenne, mais je pense que c'est une image, je pense que c'est une image. Il est passé maître dans l'art d'exploiter les faiblesses, mais il recule lorsqu'on le frappe au visage. Mais le mec insiste. Le mec, il veut qu'on mette des grosses torgnoles à Trump. A marteler celui qui briguera sans doute l'investiture démocrate à la présidentielle 2028. Ah, ça prépare le terrain. Il est temps de se tenir debout et d'être ferme, d'avoir du cran. La diplomatie avec Donald Trump, c'est un T-Rex. Soit vous allez à lui, soit il vous dévore. Arrêtez avec cette diplomatie faite de politesse et de « nous allons bien trouver une solution ». Voilà. Mais c'est tout l'enjeu du sommet européen extraordinaire qui se tient à Bruxelles aujourd'hui à partir de 19h. Est-ce que les 27 auront le courage politique de s'opposer frontalement à Trump? Bah, surtout Trump a reculé, donc je les vois mal annoncer des dingueries en vrai. Pour l'heure, il baigne dans le flou le plus total. Après l'annonce, donc, par le président américain hier soir, qu'il renonçait finalement à imposer des droits de douane supplémentaires à compter du 1er février. Avant ce retournement, les Européens étaient effectivement prêts à dégainer des contre-mesures commerciales. Moi, je demande à voir ça. Entre les annonces et le fait que les Européens arrivent à s'unir et à parler d'une même voix, parfois, il y a un monde. Hein. C'est ce que souhaitait Macron, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Avec le fameux règlement anti-coercition, avec les contre-mesures douanières pour frapper les États-Unis. Ok. À suivre. Je pense que c'est pas la peine que je vous le détaille tout le papier parce que on en a compris l'essentiel. Defecator me dit que Trump va encore prendre la parole aujourd'hui. Ah bon? Il va parler de son conseil de la paix? Ah oui, le truc à 1 milliard, là. Le billet, là. Il y a aussi des risques que ça floppe tellement c'est moisi. Bon, on verra. Je vous lis. La diplomatie est un temps long, les saillies de Trump ne seront pas oubliées, me dit Nougat. Est-ce que Trump n'essaie pas d'endormir notre méfiance, demande Sassou. Sassou, et après il fait un coup en douce en disant « Ha ha !» Un peu à la Samuel Etienne. Ben, on ne sait jamais. Défalme dans cette histoire diplomatique. Cite Chuck Norris, notre guide à tous. Deux points, les guillemets. La violence ne résout rien. Réponse de Chuck Norris, c'est que tu ne tapes pas assez fort. Alors MG me dit, à skip, la Russie serait prête à dépenser 1 milliard de dollars pour rejoindre le Conseil de la paix, mais avec les avoirs gelés. Alors 1 milliard de dollars pour les avoirs gelés, franchement, c'est cher payé quand même. Hein. Vous l'avez? Je mets mes pieds où je veux, Little John. C'est souvent dans la gueule. Qui dit ça? Il y a Seth Biff qui dit je mets, autre citation. Je mets mes pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. C'est Chuck Norris? Je mets mes pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Mais c'est génial! C'est Chuck Norris? C'est quel dieu celui-là? Attends, vous, ça existe ça? Oh, je l'ai. Je crois que je l'ai.
Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Oh, je connaissais pas, je connaissais pas. Quel bonheur, quel bonheur. Oh là là. Vous connaissiez, vous, bien sûr. Eh oui. Et la musique et le tanana qui vient renforcer, là. On se la refait une fois. Vous avez vu la musique, les cuivres derrière qui fait tanana.
Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Et puis après, il s'en va, il tourne le dos, il a pas peur. De toute façon, il sait qu'il peut rien se passer, quoi. Oh, quel bonheur! Merci les gars, j'avais pas la ref. Et en vrai, qualité de qualité. Ouais, dans la soundboard. Il faut que je règle mes problèmes de soundboard. Qualité de la VF en vrai. Autre Chuck, si tu remets les pieds ici, tu repartiras avec ta bite dans un tupperware. Waouh. Ok, on va enchaîner avec l'actu alors. Hein, parce que je sens que vous êtes sur un terrain glissant là. Let's go. On va aller sur le budget, tiens. Enfin, ça va nous calmer ça. Un petit peu là. Hein? Alors, donc ça y est, après des semaines, je vous ai passé les épisodes précédents parce que franchement c'est épuisant, après des semaines de discussion qui pour l'essentiel n'ont servi à rien, il y a un projet de budget qui est en passe d'être adopté, enfin adopté, c'est un grand mot puisqu'il va passer par 49.3, le Cornu, le Premier ministre Sébastien Lecornu, soit disant que le... Ça devrait passer puisque les socialistes et une partie des LR se sont engagés à ne pas voter la censure contre le gouvernement déclenchée par l'utilisation du 49.3. Donc, du côté des socialistes, on se félicite pas mal en ce moment. Ouais, c'est un peu grâce à nous. On a un budget qu'on a réussi à amender pour le bien des Français. Et puis, tu as Lecornu qui dit ah, bah ouais, en fait, c'est un budget qui est meilleur. Meilleur que quoi? Bah, qui est même meilleur que celui qu'on le gouvernement a proposé. Ok, alors Le Monde a voulu prendre tout le monde au mot et dit « Ah bon ? Est-ce qu'il est vraiment meilleur ?» ce budget et fait un article là-dessus. Le budget adopté est-il vraiment meilleur ? D'où les guillemets que vous voyez sur le meilleur. La dernière version du texte comporte autant d'impôts, d'accord ? Davantage de dépenses, hein ? Davantage de déficits aussi, et de dettes, écrit Le Monde. Et je cherchais la citation d'Archange que je trouve magnifique. Voilà. L'Archange qui nous dit « Je mets un 49.3 où je veux et c'est souvent sur le budget. » Bravo. Alors, lisons. Sébastien Lecornu affirme haut et fort dans sa lettre envoyée mardi aux parlementaires le nouveau projet de budget pour 2026 sur lequel le gouvernement a engagé donc sa responsabilité, c'est le 49.3, est meilleur que celui présenté initialement par le gouvernement. Vous vous rendez compte? Le Premier ministre espère avoir... convaincu les députés de ne pas voter vendredi. Je pense que l'ami Jean Massier sera en live sur sa chaîne pour vous faire vivre tout ça, hein. Suspense intolérable. Vendredi, de ne pas voter les motions de censure, puisqu'il y en a plusieurs, il y en a deux je pense, déposées par LFI, les communistes et les écologistes d'un côté, et autres motions de censure déposées par le Rassemblement National. Deux motions de censure donc. Est-ce que ces semaines supplémentaires de tractation ont vraiment bonifié le budget? Je parle pas français, moi ce matin c'est pas possible. Se demande ce matin Le Monde. Le débat est ouvert au sein même de la coalition de droite et du centre-droit qui soutient le gouvernement. Le budget de compromis négocié avec le PS se veut plus juste, dans la mesure où l'effort demandé pour redresser les comptes publics pèse un peu moins sur les particuliers, mais un peu plus sur les entreprises, surtout les grandes, les 300-400 plus grosses entreprises françaises, qui vont payer une surtaxe exceptionnelle, qui est en fait la reconduction de la surtaxe de l'an dernier. Cependant, au regard même des critères jugés décisifs par l'exécutif, la nouvelle version du budget paraît dégradée par rapport à celle déposée mi-octobre 2025 au Parlement. La charge fiscale reste inchangée pour les particuliers, mais les dépenses publiques, le déficit et la dette, elles augmentent sensiblement. C'est ce que montrent les documents dévoilés mardi. Un petit peu technique, mais très important tout ça. En 2006, on ne peut pas se foutre la gueule de Trump pendant toute la rue de presse. À un moment, il faut parler de choses sérieuses, quoi. En 2026, les prélèvements obligatoires devraient atteindre 43,9% du PIB, hein, un taux qui annonce une deuxième année d'alourdissement des impôts au total, qui représente 42,8% de la richesse nationale en 2024. Une hausse jugée incontournable pour sortir de la crise des finances publiques. Magnifique raid, les amis de la chaîne Naotech Team, qui propose tous les matins une excellente revue de presse sur l'actualité de la tech. Merci. Est-ce que c'était Jérôme ce matin qui était à la tête de la... Ça fait longtemps que je n'ai pas croisé les amis de Naotech d'ailleurs. Merci beaucoup pour le raid, vous êtes géniaux. Voilà, tous les matins, une matinale consacrée à l'actu la tech sur la chaîne de Naotech Team que vous trouvez sur Twitch. Excellente chaîne YouTube également. Vous avez parlé de quoi ce matin? Vous avez parlé d'Ubisoft? C'était quoi le petit menu ce matin de Naotech? Racontez. Racontez-moi un petit peu, mettez-moi l'eau à la bouche. SAP ? Les lunettes de Macron ? Ok, les lunettes fabriquées dans le Jura, là. Alors attention, hein, les lunettes françaises fabriquées dans le Jura, mais la boîte a été rachetée par des Italiens il y a quelques années, donc c'est fabriqué dans le Jura, mais en fait la boîte est contrôlée par des Italiens. Mais ça, je pense que Naotech a dû vous le dire. C'était Jérôme ? Merci Jérôme. Et sinon, téléphone, hardware, software, l'indépendance tech de l'UE, excellent, excellent sujet. On avait un papier hier, je ne sais plus dans quel journal, Le Monde je crois, sur l'indépendance tech de l'Union Européenne. Ça c'est vraiment hyper intéressant ça. Merci beaucoup, merci pour le raid. Là on est sur le budget, qu'est-ce qu'il y a dans le budget ? Donc, pas d'augmentation des impôts pour les particuliers. Une augmentation, en revanche, enfin une augmentation, une reconduction de la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, hein, et un déficit qui continue d'augmenter. Selon Bercy, donc je remonte un petit peu en avant, donc hausse des impôts, au global donc, de la charge fiscale, incontournable pour sortir de la crise des finances publiques, alors que même que la France est déjà championne d'Europe des taxes en tout genre, écrit Le Monde. L'amélioration du déficit public en 2026 devrait provenir ainsi à 60% du relèvement des prélèvements obligatoires. Selon Bercy, l'augmentation attendue des recettes s'explique essentiellement par les mesures votées dans le budget de la Sécu, par de meilleurs recouvrements escomptés grâce à la lutte contre la fraude fiscale, ainsi que par l'impact des mesures du budget 2025 comme la faculté donnée au département de relever les taxes sur les transactions immobilières. La stabilité globale des prélèvements obligatoires par rapport au budget initial cache toutefois de notables changements dans la répartition. Désormais, il n'y a plus d'augmentation d'impôts pour les ménages, ok ? Y compris pour les plus aisés, parmi lesquels certains retraités que la droite a tenu à protéger. Donc, à un moment, il a été question, vous savez, d'une imposition, d'une nouvelle imposition pour les ménages les plus aisés en France. Voilà. Ou pour les retraités, ou en tout cas pour certains retraités, et en fait non. Voilà. Quant à la taxe sur les holdings destinée à empêcher les grandes fortunes de contourner l'impôt, hein, elle n'entrera finalement pas en vigueur en 2026. En revanche, donc qui va payer plus ? La surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, elle, est presque doublée. Passant de... Ah ouais, elle est... Ah pardon, ok, je pensais qu'elle était au même niveau. Non, non, elle est maintenue et elle est x2. La surtaxe passe de 4 milliards d'euros à 7,3 milliards d'euros dans la version définitive. Okay. Par rapport au projet de budget initial. Okay. Les entreprises se retrouvent les grandes perdantes de la nouvelle donne selon le MEDEF. Les multiples concessions accordées aux socialistes en échange de leur non-censure se traduisent par une hausse accentuée des dépenses publiques, constate Le Monde. Au lieu d'augmenter de 29 milliards d'euros d'une année sur l'autre, elle devrait grimper de 37 milliards. Hors inflation, la dépense publique va ainsi progresser de 0,8% à la place du 0,3% qui était prévu dans le premier projet de budget, celui du gouvernement. Dans la dernière ligne droite, donc comme les socialistes le demandaient, le Cornu a notamment accepté d'augmenter la prime d'activité versée aux travailleurs gagnant peu d'argent, de revaloriser certaines prestations sociales, ou encore de créer 2000 emplois pour accompagner les élèves en situation de handicap dans l'éducation nationale. Malgré ces coûts, les dépenses publiques devraient croître un peu moins vite que l'économie dans son ensemble, si bien que finalement leur poids dans le PIB baisserait légèrement à 56,6%. Conséquence logique du déficit accru, la France va devoir s'endetter plus que prévu. La dette publique, au lieu de monter à 117,9% du PIB, devrait culminer à 118,2%. Avec l'augmentation des taux d'emprunt imposés à la France par ses créanciers, le seul paiement des intérêts sur cette dette va bondir de 7 milliards d'euros par an. Voilà. Autant d'argent en moins pour d'autres usages plus productifs, bien sûr. Voilà. Donc là, globalement, la charge de la dette augmente, si vous devez retenir quelque chose de ça, et que ce sont plutôt les grandes entreprises qui sont mises à contribution que les particuliers dans ce budget. Voilà. Ils n'ont même pas fait sauter l'abattement de 10% pour les retraités. Ouais, alors qu'à un moment, on était sûr. Comme quoi, vous voyez, hein, moi, je ne vous ai pas abreuvé ces dernières semaines de toutes les discussions au Parlement sur le budget parce que je savais qu'à la fin, le résultat final serait forcément très différent. Il y a eu des dizaines d'articles sur notamment l'abattement de 10% pour les retraités qui allait être supprimé. Au final, il ne l'est pas. Ce qui fait dire à Sir Bibu, on veut vraiment sacrifier les actifs pour le confort de gens qui ont déjà bénéficié d'une économie faste. J'aime bien Jason Most Wanted, la finesse dans le dosage des analyses. Eh bien, en gros, nous sommes tous morts. Merci, Jason. Ça fait plaisir. Merci, Pastradon, pour le soutien. Oui, y a Ziwak. Salut Ziwak. Vous êtes en team, non? Pays communiste. C'est... vous voulez que je recite notre ami Jason? Jason, c'est pas contre toi, hein. C'est juste parce que j'aime bien rire. Il est bon de rire. Pour faire simple, le système gauchiste de la France depuis 40 ans reste le même. Merci beaucoup, Jason. Oui, bah c'est bien de temps en temps un peu de content, hein. Sinon, c'est parce que là, c'est chiant quand même, sinon. Et une oula pour Jason. Une oula peut-être, parce qu'une oula... Une oula peut-être, mais pas une oula. Moi, je ne oula oup pour personne ici. Hein. Alors là, le jour où je vais oula oup pour quelqu'un, jamais, hein. Oula, Razen. Oula. Allez, encore un mot qui fait plaisir. Oula, on aime les mots qui claquent ici, là. Et bim, boycott. Hein, c'est pas un mot qui claque, ça? C'est pas un mot qui claque, ça? Alors, vous avez plusieurs articles ce matin, plutôt bien écrits, plutôt réfléchis, hein, sur ce débat. Est-ce qu'il faut boycotter la prochaine Coupe du Monde de football, organisée notamment par les États-Unis? Voilà. La petite musique d'un boycott, dit La Croix. Voilà. Il y a un article dans La Croix, il y a un article... Non, ça c'est dans Le Parisien. Dans Le Parisien, dans La Croix, il y a un édito dans La Croix. Il y a Monsieur Klein qui dit « ça marche jamais les boycotts ». T'as pas tort. Le boycott sur la dernière Coupe du Monde au Qatar, ça servait à rien. Ça servait à rien, ça n'a rien empêché. Ça n'a pas empêché la Coupe du Monde. Mais ça a servi à rien, pas tout à fait. Parce que du coup, ce débat sur le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, il a permis plein de débats, plein d'articles, plein de débats notamment ici, sur les droits de l'homme au Qatar, les droits des femmes au Qatar, les droits des minorités au Qatar, les conditions dans lesquelles les stades avaient été construits, le coût environnemental de cette Coupe du Monde. Voilà. Donc, le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, donc ça n'a eu aucune influence sur la Coupe du Monde au Qatar, mais ça a permis d'avoir ce débat sur plein de sujets. Et plutôt que de se dire « Ouais, vive le foot au Qatar !» Il y a plein de gens qui se sont dit « Bon, bah ouais, il y a une Coupe du Monde au Qatar, mais quand même, le pays pose pas mal de problèmes. Voilà. » Et bah alors oui, mais ça débat, mais alors fondamentalement, ça change quoi? Bah, quand les gens se mettent au courant, ça change leur perception du monde, et puis ça peut modifier leurs engagements citoyens, personnels, leur vote. Voilà, par exemple. Voilà. C'est un processus long, bien sûr. Après aussi, on peut aussi ne pas du tout réfléchir à tous ces sujets, puisque réfléchir à quoi ça sert, hein. Alors c'est des process longs, un peu frustrants. Mais c'est un peu la ligne de la Croix ce matin. La Croix dit par exemple, vous verrez dans un édito que je trouve intéressant, bah on voit ça sert à rien, hein, le boycott. Jamais il va y avoir un boycott de la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais en revanche, en parler, c'est important. Parce que ça permet de parler de ces sujets. Après, ceux qui estiment que Paris est un problème ne sert à rien, ben là, ça, c'est un autre débat, quoi. On peut tous se mettre sur la gueule non-stop et pas se parler, aussi. Hein. Comme le dit Mimodine, mais pourquoi utiliser son cerveau? C'est un peu ça. Ouais. Ah bien, c'est très frustrant, bien sûr, parce qu'on a l'impression que ça sert à rien. Mais c'est un peu la ligne de la Croix ce matin. Lisons d'abord le papier du Parisien là-dessus. La petite musique d'un boycott, c'est quoi cette histoire? Plusieurs personnalités politiques ont évoqué l'idée de ne pas se rendre aux États-Unis si Trump maintenait une position agressive envers l'Europe. Les fédérations de foot se posent la question, se posent doucement la question. Hein. On va se calmer. 125 ans, ça se fête. Alors, bon anniversaire à la Fédération hongroise de football qui a profité de l'occasion pour inviter le gratin du foot européen. Dimanche et lundi, il y avait la fête en Hongrie pour les 125 ans de la Fédé de foot. On a parlé d'ancienne gloire du football. D'anciens grands moments du football hongrois, et quand les micros étaient coupés, les portes fermées, de la possibilité d'un boycott de la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis cet été, selon le quotidien anglais The Guardian, qui est la source de cette info. Parce qu'entre certains présidents de fédérations européens, juste une petite parenthèse, vous êtes pas très nombreux, enfin, vous êtes très nombreux, vous êtes 3525. En revanche, vous n'êtes pas très nombreux à être touchés par un syndrome dans le chat. J'en vois deux ou trois depuis 1h32 qu'on est ensemble, d'être touchés par le syndrome du personnage principal. Quand vous êtes 3500, écrire un message toutes les 15 secondes sur ce que vous pensez de l'actualité, en fait, c'est pas responsable. Bon, voilà, le chat rigole parce qu'il voit comme moi de qui on parle. Les gars, c'est très bien, hein, que vous réfléchissiez à l'actualité, que vous proclamiez vos opinions à la face du monde. Mais avec une certaine mesure, quoi. Quand littéralement je vois 15 messages dans le chat et tous les 15 messages, il y a la même personne qui écrit un message, si tout le monde fait comme vous, en fait, c'est illisible, quoi. Donc mettez un peu, allez-y mollo, quoi. Vous êtes deux ou trois, hein, concernés. Voilà. Donc n'hésitez pas à lever un petit peu le pied sur la pédale de l'accélérateur à commentaires, quoi. Ok, c'est bien. Je vois que ceux qui sont concernés semblent avoir entendu le message, puisque subitement ça s'est calmé. Voilà, juste pour. Mets-le en mode lent, une minute, non. On parle de deux personnes sur 3500. Je pense qu'elles peuvent s'apaiser toutes seules. OK ? Merci pour les autres. Donc, en Hongrie, on en parle de ce sujet. Parce qu'entre certains présidents de fédérations européens, l'inquiétude commence à monter face à la possible annexion du Groenland par les États-Unis et la nécessité d'y apporter une réponse collective si jamais Trump allait au bout de ses idées. Oui, c'est pour toi, Datso Gorilla, qui dit apaisons-nous. Hein. C'est pour toi, hein. Tu es l'une des deux personnes dont je parlais. Hein. Donc arrête de faire le malin maintenant, bordel. On est très content que tu sois là, mais doucement sur l'accélérateur des commentaires, quoi. La pédale de l'accélérateur des commentaires. Faut faire le malin, là. Apaisons-nous. Non, apaise-toi. Surtout. Excusez-moi. Mais je suis content de te lire en vrai. Hein. Mais c'est faut doser, quoi, comme disent les jeunes. Autonome politiquement, le Groenland appartient footballistiquement au Danemark, sa petite fédération n'étant reconnue par aucune confédération de la FIFA. Et attaquer son territoire reviendrait donc à attaquer directement un pays membre de l'UEFA, la surpuissante confédération européenne, et ne pourrait rester sans réponse. Toujours selon The Guardian, donc excellent journal britannique, plusieurs actions possibles ont animé les débats, le boycott semblant n'être encore qu'un horizon très lointain. Arrête, arrête. C'est une blague, il y aura zéro boycott. Hein. À ce jour, là aujourd'hui, 22 janvier 2026, au regard des forces en présence, il y a zéro boycott du mondial. Donc, un horizon très lointain, mais plutôt une petite musique, dit le Parisien, qui revient de plus en plus et dont le son montrait dans l'opinion publique à chaque fois que Trump avance un pion. En Allemagne, c'est le député de la droite démocrate chrétienne, Jürgen Hart, qui a mis l'idée sur la table comme moyen de pression pour faire reculer le président américain, qu'il imagine ne pas vouloir gâcher son grand rendez-vous de l'été. Un retrait du tournoi ne serait envisagé qu'en dernier recours afin d'amener Trump à la raison sur la question du Groenland, a-t-il lancé à Bild, donc cet élu allemand, appuyé par un sondage démontrant que 47% des Allemands soutiendraient une absence de leur équipe au Mondial s'il le fallait. Je suis un peu surpris par ce chiffre, mais après tout, pourquoi pas. En France, il y a un député, LFI, qui est Éric Coquerel, ou encore l'ancien entraîneur Claude Leroy, qui ont aussi évoqué cette idée. Merci, Sulivage. En Angleterre, vous avez un député conservateur, Simon O'Hare, qui a enchaîné évoquant des messages à envoyer à l'administration Trump pour lui faire comprendre qu'il existe certaines lignes rouges. Si cela signifie ne pas aller à la Coupe du Monde, alors nous devrions ne pas y aller. Bon, vous voyez, c'est quelques voix isolées, mais ces voix, elles existent. Une pétition a fait entrer la question dans le domaine public aux Pays-Bas, lancée par un journaliste. Boycotter le mondial de Trump a recueilli 125 000 signatures en 4 jours. Dans un pays pourtant historiquement atlantiste et où le football occupe une place quasi sacrée. Le journaliste dénonce l'érosion démocratique aux États-Unis, les abus de la police migratoire de l'ICE, de l'ICE, la police anti-immigration, le climat politique tendu et les attaques de Trump contre le Canada et le Mexique, co-organisateurs du tournoi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Le mondial est quand même co-organisé par 3 pays, dont 2. Ok, merci Natsugoria, merci beaucoup. Mais 2 avec qui Trump est en bisbille quand même. C'est assez intéressant. Pour lui, participer au mondial dans ce contexte poserait un problème moral. Qui parle là? Ah, c'est le journaliste néerlandais. C'est le journaliste néerlandais? Oui, c'est ça. Passionné de football, il évoque une décision douloureuse, mais estime que les principes doivent primer. La pétition dont le nombre de signatures est toujours en croissance alimente un débat national. Un sondage du quotidien national AD aux Pays-Bas révèle que près des 3/4 des lecteurs soutiennent l'idée d'un boycott. On est assez proche du sondage qui a été mené en Allemagne. Pour le journaliste, donc néerlandais, le rejet suscité par Trump dépasse désormais le plaisir que procure le foot. Il y voit également une réponse citoyenne à la mollesse des dirigeants européens face à Washington. Depuis dimanche, la pétition recueille environ 1000 signatures par heure. La fédération néerlandaise, d'abord inflexible, semble prête à revoir sa position. Si elle confirme pour le moment sa participation, pour le moment, elle dit, elle reconnaît que Trump pourrait remettre beaucoup de choses en cause. Donc il y a des déclarations au niveau des fédés quand même. Du coup, le journaliste néerlandais qui est à l'origine de la pétition appelle à un débat similaire en France, en Allemagne, en Espagne, afin que l'Europe d'une seule voix choisisse de rester à la maison. La fameuse Europe qui arrive souvent à parler d'une seule voix. Non, en fait, jamais. Enfin, pas assez. Officiellement, pour l'instant, les autres fédérations européennes restent discrètes. C'est vrai que je n'ai pas vu de déclaration de la Fédération française de football là-dessus. Contactée, celle de Norvège, habituée à prendre des positions politiques fortes, nous assure qu'elle n'a pas pour l'heure de discussion sur la possibilité d'un boycott. Et renvoie directement aux propos tenus par sa présidente norvégienne, donc. Toute décision allant au-delà du sport ayant une incidence sur la politique étrangère norvégienne et la responsabilité du gouvernement norvégien, l'Europe doit aujourd'hui faire front commun, défendre des valeurs fondamentales telles que la démocratie, le droit humain et le droit international. Du côté de la Fédé du Danemark, directement concerné par l'histoire du Groenland, bien sûr, on indique qu'on suit de très près la situation. Le Danemark est encore barragiste pour le mondial. Alors que le président de la Fédération française nous dit le Parisien, Philippe Diallo, n'a pour leur part répondu à nos sollicitations, donc pour l'instant il ne veut pas parler, la ministre des Sports, Marina Ferrari, a assuré mardi soir qu'il y avait, au stade où nous parlons actuellement, pas de volonté de boycott de cette grande compétition du côté du ministère français des Sports. Et la FIFA dans tout ça, alors, la FIFA, organisation très sensible à la question des droits de l'homme, aux droits humains, enfin, vous connaissez la FIFA, quoi. Alors là, je brûle de savoir la position de la FIFA là-dessus. Pour ceux qui sont un tout petit peu premier degré, je trollais un petit peu là sur la FIFA. Et la FIFA dans tout ça, donc là, peut-être que je me trompe et que la FIFA va dire une dinguerie, hein. Organisatrice du mondial, elle n'a pas pour l'instant communiqué sur ce sujet brûlant. Oui, la FIFA qui a remis un prix de la paix à Trump, j'avais oublié, merci. Il faut dire qu'il y a encore quelques semaines, à l'occasion du tirage au sort des poules, son président, Gianni Infantino, remettait à son grand ami Donald Trump le prix de la paix de la FIFA. Ouais. Mais que nous réserve la FIFA ? On n'est jamais déçu. Hein. Et j'aime beaucoup le mot de Geijin dans le chat, le E dans FIFA. Donc vous voyez, FIFA, F-I-F-A, le E dans FIFA, eh ben c'est pour éthique. Et moi, je pense que ça, ce mot, il s'applaudit. C'est qui les gens là, dans la photo, j'ai pas fait attention. Elle est belle, c'est un très joli mot, bravo. Elle est pas mal. Le E dans FIFA, c'est pour éthique. C'est très très beau ça. C'est de toi ou tu l'as piqué à quelqu'un ? Parce que c'est magnifique. Alors, on a donc le monsieur là, vous le reconnaissez, hein, c'est Trump. Voilà. Alors, vous savez qu'il a redécoré son bureau, le bureau ovale. Il y a de l'or partout. Hein, c'est plaqué or de partout maintenant. Et donc, du coup, manifestement, il est un peu en admiration devant ce trophée tout gold. Hein. Tout goldy. De la FIFA. Donc là, je pense que c'est le patron de la FIFA, là. Gianni Infantino, qui est à droite. Voilà. Et à gauche, vous avez le vice-président américain, Jed Evans, qui se voit bien calife à la place du calife à la prochaine présidentielle américaine. Voilà. Alors qu'il n'a pas le droit de toucher normalement ? Ah bon ? Il n'a pas le droit de toucher le trophée ? Ah bah là, il touche. Hein. C'est de moi. Geijin, bravo. Geijin, le E dans FIFA, c'est pour éthique, c'est de Geijin. Double applause. J'ai envie de te faire une hola, j'ai envie de te faire une oula même. C'est peut-être pas la vraie coupe, certains me disent que c'est peut-être une réplique. Il n'y a que les vainqueurs ou les anciens vainqueurs qui ont le droit normalement. Ah, c'est génial. Merci KNCS2. Merci Pastradan. Merci Spizzana. Merci pour les soutiens. C'est une réplique, on me dit que c'est une réplique. Alors, vous êtes plusieurs à me dire, ouais, interdit de toucher normalement. Alors, est-ce que je peux... Samuel, tu aimes décidément aller sur les terrains glissants. Si on en croit le rapport aux femmes de Donald Trump et les poursuites judiciaires qu'il a connues en la matière, le « normalement, faut pas toucher », je suis pas sûr que ce soit le truc qui l'embarrasse le plus. Excusez-moi, il fallait que je le dise. Ça joue. Le tacle est propre. Ça joue. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher là ? C'est que des faits. Hein. Il y a Asmode qui écrit « Le F dans Trump, c'est pour féminisme. » Ça joue, ça joue. C'est vrai. C'est vrai. Tatsu Gorilla, que j'ai sermonné tout à l'heure, nous dit « Donald Trump a déjà dit à propos de sa propre fille, c'était il y a longtemps, mais il l'a dit, qu'il sortirait avec elle s'il n'était pas son père. » C'est vrai. C'est vrai. C'est un fait. C'est une déclaration. Vous pouvez la retrouver. C'est dans son best-of. Tacle à la carotide, mais ça joue le ballon, il n'y a pas faute. Ouais, il avait des... à propos de comment Ivanka, c'est ça, Ivanka Trump. Vous, l'humour, vous régalez ce matin, ça fait plaisir. Alors, il y a aussi un article dans La Croix sur le sujet du boycott de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est la bonne stratégie, se demande La Croix. Donc, je vous lis rapidement l'article, puis après, on ira voir l'édito sur le même sujet qui est assez intéressant. À mesure que le calendrier se rapproche, le débat enfle. Donc là, on était dans Le Parisien, on passe à La Croix. La prochaine Coupe du Monde de football, prévue du 11 juin au 19 juillet, organisé conjointement donc par le Mexique, le Canada et les États-Unis, se retrouve au cœur d'enjeux géopolitiques. Entre deux conneries, j'essaie de donner des infos. Hein, c'est quand même une revue de presse. En cause, l'attitude de Trump sur la scène internationale, ses prises de position musclées, notamment sur le Groenland, qui ont ravivé les tensions diplomatiques, tout ça, vous savez. Est-ce que c'est suffisant pour céder à la tentation d'un boycott de la part des pays européens ? Mardi, le secrétaire d'État allemand au sport, Christian Schanderlein, a indiqué à l'AFP que la Fédération allemande de foot et la FIFA en décideront en toute autonomie que le gouvernement fédéral acceptera cette appréciation, remettant ainsi la responsabilité sur les institutions sportives. Ok, c'est une façon de dire, circuler, il n'y a rien à voir quand même. En parallèle, le député membre du Parti conservateur britannique, Simon O'Hare, qui a été cité par La Croix, par Le Parisien, est aussi dans La Croix, et lui, effectivement, évoque sans détour un boycott ferme. Il appelle cet élu britannique à ce que l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, trois pays qualifiés d'ailleurs, n'y participent pas si la situation reste inchangée. Nous devons répondre par le feu, a-t-il lancé. Merci Kevin Mag de ton soutien. La France reste prudente. Profitant de ses vœux au monde sportif mardi 20 janvier, la ministre Marina Ferrari a indiqué que pour l'instant, bon ça on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de boycott, je ne vous donne pas les mêmes infos. Éric Coquerel, par contre le député LFI, beaucoup moins prudent, a déclaré « Imagine-t-on aller jouer au foot, jouer à la Coupe du Monde de football dans un pays qui agresse ses voisins ?» Menace d'envers le Groenland, détruit le droit international, veut torpiller l'ONU, instaure une milice fasciste et raciste dans son pays, donc ça c'est l'ICE, hein, l'ICE, interdit d'accès à l'épreuve les supporters d'une quinzaine de pays, parce que ça c'est scandaleux, vous savez qu'il y a des pays qui ne vont pas pouvoir envoyer de supporters à cette Coupe du Monde parce que Trump a décidé qu'aucun de ses supporters n'aurait de visa pour aller voir les matchs, voilà, pour une quinzaine de pays, plus X pays dont les supporters, les demandes de visa seront regardées de très 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 près. Alors ça c'est quand même un vrai sujet. Prévoit de bannir des stades tout signe LGBT, etc. La question se pose sérieusement, d'autant qu'il est encore possible de se recentrer sur le Mexique et le Canada, poursuit le président de la Commission des Finances de l'Assemblée. Si les deux derniers mondiaux, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar, ont eux aussi connu leur lot de contestations, autoritarisme des régimes concernés, non-respect des droits humains, coût environnemental, bon, moi-même, vous savez que sur le dernier mondial, j'avais participé à un tout petit niveau bien symbolique et bien ridicule, en ne donnant pas les résultats de cette Coupe du Monde sur ma chaîne, hein, pendant le Mondial au Qatar, sachant que personne ne vient sur cette chaîne, de toute façon, pour avoir les résultats de foot. Donc, comme certains amis sur le réseau du Chétan X l'ont signalé pendant des mois, « Qu'est-ce que tu vas faire, Samuel Etienne ?» Bah bon, rien du tout, c'est, je suis bien d'accord, c'est ridicule, mais c'est un positionnement symbolique. C'est marrant parce que, à l'époque, je me suis fait attraper ma veste par les gens un peu pro-foot, en disant « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton boycott de merde? Mais qui vient sur ta chaîne pour voir le résultat du foot ?» Bah, personne, en vrai. Voilà. Donc, et aujourd'hui, depuis quelques semaines, je me fais attraper par les mêmes, d'ailleurs. Ah oui, quand je réfléchis, c'est les mêmes, qui disent « Et alors, pour les États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire ?» C'est les mêmes, en fait. Et donc, il cite mon tweet de l'époque, où je disais « Bon, bah les gars, moi, j'ai pris cette décision... à mon petit niveau, quoi. Et il dit, alors, pour les États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous imaginez bien que je n'ai pas le temps de répondre à tous ces messages, parce que c'est assez régulier. Bah, en gros, il y a de fortes chances que je fasse la même chose, d'ailleurs. Parce qu'en fait, le pari de ces interpellations, c'est que, bah, du coup, pour les États-Unis, Je vais, au contraire, je vais pas boycotter. Si, si, a priori, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être qu'ici, effectivement, on donnera pas non plus les résultats de la Coupe du Monde aux États-Unis. Si Trump continue son délire, quoi. Voilà. En tout cas, c'est une question qu'on se pose, quoi. On verra bien. Mais on voit, mais totalement symbolique. Hein. Tout le monde s'en fout, hein, de la position de Samuel Etienne sur le mondial, hein, de foot. On est d'accord. Mais c'est l'occasion d'en parler, du coup. Ça provoque du débat. C'est ça qui est intéressant. Donc, si les deux derniers mondiaux, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar, ont aussi connu leur lot de contestations, autoritarisme des régimes concernés, non-respect des droits humains, de co-environnemental, le choix d'une mise à l'index de la manifestation en Amérique du Nord émane cette fois davantage des responsables politiques que des ONG. Reste à savoir si ça peut avoir un impact. Bon, on a un peu la réponse déjà. Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport en doute. Bah oui, mais Jean-Baptiste, JB, t'as raison. C'est une stratégie qui, vis-à-vis de Trump, ne semble pas être la meilleure. Ça le conforte, ça le radicalise, il peut s'en servir médiatiquement. Imaginons que dans quelques mois, semaines, je dise « Bon les gars, comme au Qatar, je vais boycotter les résultats de la Coupe du Monde de foot sur cette chaîne parce que je trouve qu'elle s'organise dans de mauvaises conditions. Les gens vont me dire « Mais tu crois que... Mais Trump, à ton avis, tu crois que ça l'intéresse, ta position ?» Ben non. Ben non, ça l'intéresse pas. Évidemment. On est dans le registre du symbole. Mais du coup, c'est l'occasion d'en parler, quoi. C'est toujours la même idée. Ça, au contraire, dit ce spécialiste de la géopolitique du sport, ça le conforte, ça le radicalise, il peut même s'en servir médiatiquement. Oh, j'en rêve. Imaginez Trump qui me cite à la tribune de l'ONU. Oui ! Et l'autre, là, hein, le tout petit. Ah, ça, pour le coup, il a raison, je suis tout petit. Le tout petit, parce qu'il parle beaucoup de taille. Vous avez remarqué que Trump, il parle beaucoup de taille. Tout petit président, Macron, tout petit pays, tout petit. Il parle beaucoup des tailles. C'est marrant, parce que souvent on dit que c'est ceux qui parlent le plus. Enfin bref, peu importe. Le tout petit Samuel Etienne. J'imagine la célébrité mondiale. C'est incroyable. Ouais, celui qui il forgot to buy his diffuse key, ouais, au VCT à Berlin. Ouais, celui-là, là. Oh, le rêve. Bon, bref, en vrai, il s'en fout. Hein. Outre qu'une telle décision pénaliserait par ailleurs le Canada et le Mexique. Ah, eh oui. Le risque serait de voir l'administration américaine riposter. On assiste à l'avènement d'un régime plus autoritaire qu'il ne l'était jusqu'alors, avec une prise de pouvoir d'une frange très radicale du Parti républicain. Cette dernière est capable d'enlever des visas, comme elle l'a déjà fait, de prendre des mesures confiscatoires. Rares sont les pays qui oseraient défier Trump. En l'état, l'adversaire est trop fort, ajoute le spécialiste. Avec 48 sélections nationales présentes, des centaines de joueurs impliqués, des milliards d'euros de droits télévisuels, une audience planétaire à la clé, aucun État, donc estime ce géopolitologue du sport, Jean-Baptiste Guégan, aucun État, aucune fédération majeure, n'aurait de toute façon intérêt à se lancer seul dans un boycott. Persuadé que les équipes seront au rendez-vous estival, Jean-Baptiste Guégan fait plutôt l'hypothèse d'un semi-boycott. Oh, mais Sarel... Attendez, je fais une pause. Sarel écrit « Bonjour, je t'ai donné un papier pour de la boxe ce matin. Très content de vous avoir croisé. Bonne journée. » J'explique ce message, qui est trop sympa. Ce matin, bon, en ce moment, j'emmène les enfants à l'école tous les matins, on prend le métro. Et donc, j'emmène mes deux petits. Et on arrive devant la bouche du métro et il y a deux jeunes garçons, fort sympathiques, qui distribuent des flyers. Je me dis, voilà, c'était peut-être intéressant. Ça se trouve, c'est une boutique coquine. Tu vois, c'est peut-être des produits un peu affriolants. Je me dis, ma curiosité de journaliste s'allume, je me mets en veille, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois ? Enquête, on est en reportage, quoi. Et donc, j'arrive à la hauteur des deux jeunes gens, affables, sympathiques, hein, et qui me tendent un papier. Alors, je suis avec mes deux enfants, quand même, donc je fais à peu près attention, je me dis, ça se trouve, les gars, ça se trouve, il y a les municipales, ça se trouve, les mecs, c'est un tract politique. Hein, tu vois, ça se trouve... Et moi, il y a des tracts politiques, je ne veux pas que mes enfants les aient dans leurs mains, si tu veux, parce qu'après, y a des idées qui sont dangereuses. Et donc, je vois un truc de sport, de boxe. Et donc, je demande à mes enfants, je dis, bah, est-ce que, regardez, c'est un tract qui parle d'une salle de sport qui propose un truc autour de la boxe. Hein. Est-ce que ça vous intéresse ? Le petit Solal qui avait une boîte de céréales vide à la main, parce qu'ils travaillent sur un avion en ce moment, il est en maternelle, il fabrique un avion, avec des boîtes de céréales vides, des petits contenants yaourt en verre là. Qu'est-ce qu'ils font avec des contenants en verre pour faire un avion? Peu importe. Et des bouchons de pompote. Et donc, avec son paquet de céréales vide, il dit non. Ça ne m'intéresse pas. La boxe. Malo, le grand, 9 ans, un peu plus. Il prend le tract. Et après, on a regardé. Et en fait, ouais, c'est vachement intéressant. C'est des cours, notamment en musique. Voilà. Alors, c'est pas de la boxe, c'est pas pour devenir champion du monde, mais c'est. C'est des cours de boxe avec notamment entraînement en musique et tout. J'ai trouvé ça cool. Et là, Solal, les enfants sont incroyables, me dit dans le métro, me dit ah mais oui, parce qu'en fait parce qu'il n'y avait pas l'adresse du de la salle. Il n'y avait pas l'adresse de la salle physique, je veux dire. Après il y avait le site tout ça. Et Solal, 5 ans, me dit ah oui, je connais, 5 ans hein, je connais, parce qu'il reconnaît le logo. C'est près de la bibliothèque. Parce qu'il y a une bibliothèque municipale pas loin où vont mes enfants pour emprunter des livres et des BD. Voilà. Donc, ça nous a fait notre petite discute. Et j'ai le flyer. Voilà. Et tout ça pour vous dire que je vais me renseigner. Parce que, bon, j'ai jamais fait de boxe. Mais aller taper contre un sac. C'est pas une expression, hein, contre un sac de boxe. En musique. Moi j'ai du mal à motiver au niveau du sport. Je me suis dit peut-être que ça allait m'intéresser. On peut réserver son créneau par téléphone, j'ai vu tout ça. Voilà. Donc ça nous a, vous voyez comme quoi, un petit tract, ça nous a fait notre histoire ce matin. Voilà. Donc merci à toi pour le tract. Donc je reviens à mon boycott du mondial. Vous m'imaginez en train de taper en rythme contre un sac? Merci Sarel. Non, mais j'ai deux petits garçons qui sont des gens. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette famille autour de moi. Le mondial. Persuadé que les équipes seront au rendez-vous estival, Jean-Baptiste Guégan fait plutôt l'hypothèse d'un semi-boycott. C'est quoi ça? Un semi-boycott marqué par l'absence des officiels. Ok. Il est possible que des dirigeants européens de premier plan ne soient pas présents et ne fassent pas la photo aux côtés du président américain. Ce qui revient à utiliser l'événement et sa médiatisation comme une caisse de résonance. Eh ben, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais. Et justement, c'est un peu ce que dit Lacroix dans son édito. Paul de Coustin écrit à propos de cet édito, à propos de cette Coupe du Monde, pardon. À mesure que Trump déploie sa vision outrageuse du monde, le reste de la planète s'interroge sur les meilleurs moyens d'y faire face. Ok. Dernière inné en date, boycotter la Coupe du Monde de foot, organisée du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique, et pour 78 des 104 matchs, donc quand même pour une grosse partie, aux États-Unis. Les appels à ne pas la jouer se multiplient en Europe, alors que le vieux continent et le président américain s'affrontent sur les visées impérialistes de ce dernier sur le Groenland. Claude Leroy, ancien sélectionneur de plusieurs équipes africaines, bon, les amateurs de foot le connaissent bien, pointe comme argument supplémentaire les conséquences désastreuses pour l'Afrique des Coupes américaines dans l'aine internationale. Des coupes, pas des coupes de football, hein, des coupes, des réductions de budget, hein, avec la suppression de l'US Aid, hein, pour être très très précis, qui est l'une des premières mesures qu'a pris le président Trump en revenant au pouvoir, avec la suppression de millions de dollars d'aide aux pays en développement. Donc c'est de ça dont on parle. Sur les réseaux sociaux, les exhortations au boycott se font dans toutes les langues. Marchant sur des œufs, notre ministre des Sports a appelé à dissocier le sport et la politique. C'est classique. Hein. J'attends l'argument bientôt. Oui, mais quand même, le boycott. Alors, vous avez des sportifs qui préparent cet événement depuis des années. Vous vous rendez compte, une Coupe du Monde pour un footballeur, ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, les gars, il n'y aura pas de boycott. Les matchs vont se tenir. Les joueurs de foot vont pouvoir jouer. Hein, et on va pouvoir ramener la coupe à la maison. Hein, ça nous fera 3 étoiles. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais de parler de ce boycott et de trouver des moyens de boycotter, de clamer son mécontentement sur le pays qu'organise. Et la manière dont ils l'organisent, ça c'est possible quand même. Et ça n'empêchera pas les joueurs de jouer, quoi. Donc, la ministre des Sports appelle à dissocier le sport et la politique, le classique. Un souhait louable, mais déconnecté de la réalité des enjeux des compétitions internationales, des intentions des institutions qui les organisent. Ils sont évidemment économiques et politiques avant d'être sportifs. Le président de la FIFA, le fameux Gianni Infantino, a d'ailleurs lui-même mis fin à toute ambiguïté en décernant toute honte bue un grotesque prix de la paix à Trump en décembre dernier. Un boycott généralisé du Mondial 2026 semble illusoire, hein, dit Lacroix. Les appels contre les compétitions en Russie et au Qatar, deux pays hôtes autrement problématiques, n'avaient pas eu d'effet. Pour autant, et moi c'est un petit peu ma position aujourd'hui, pour autant, il est important de poser la question hein, pour que les sujets politiques qu'elle recouvre soient débattus. Voilà. Merci Lacroix. Je vous lis. Linakos. En vrai, la Coupe du Monde est encore loin. Trump peut encore faire de vraies dingueries qui amèneraient les fédérations à protester réellement. Mais qui va aller au stade vu les prix annoncés des bulbus bonito? Cette Coupe du Monde aux États-Unis là, c'est la Coupe du Monde avec les prix des billets les plus élevés ever. Alors que pour faire valider leur candidature pour être choisi par la FIFA, les États-Unis avaient promis justement des prix contenus et modérés. Ils n'ont pas tenu cette promesse. Le prix des billets est surréaliste. Qui va aller au stade vu les prix annoncés? Je crois pourtant que les billets se vendent très bien. Il y a des gens qui peuvent, notamment aux États-Unis, payer ses billets. Voilà. On peut parler. Alors, il y a Jean Abdoul, salut Jean, qui dit on peut parler de la compétition en parlant le moins possible des États-Unis. On peut faire l'inverse. On peut parler de la compétition en parlant le plus possible des États-Unis et de ce qui ne va pas dans ce pays. J'ai pas très bien compris, il a décidé d'empêcher certains pays d'avoir des visas, pourquoi et lesquels? True Sins. Trump a dit, il y a 15 pays, je crois. 15 pays, vous n'aurez aucun visa. Aucun visa pour venir voir ce mondial. Aucun. Voilà. Il a dit, ces pays qu'il a qualifié dans une autre déclaration de pays de merde. C'est une citation. Voilà. Voilà. Donc vous viendrez pas. Disant plein de choses, et notamment parce qu'on on vous connaît bien, hein, vous venez pour un match de foot, puis après vous restez. Voilà. Après, il y a une autre liste de pays dont il a dit, vous, on va vous surveiller très très près, hein, les visas, hein, parce que c'est pareil, hein, vous venez pour un match de foot, puis en fait vous restez, quoi. Voilà. Donc c'est une des raisons évoquées par Trump. L'article sur les études, c'est dans Le Monde, mais c'est dans Le Monde, Alcibiade, Cahiers Campus. Donc c'est dans Le Monde, sorti hier après-midi. Là, en début d'après-midi, vers 14h, tu auras la prochaine édition. Donc, Le Monde daté d'aujourd'hui, sorti hier après-midi, mais Cahiers Campus. Voilà. Donc, il y aura des pays qui n'auront pas de supporters, quoi. On pourrait prendre ta question, True Sins. Alcibiade, je le lis dans un instant, en quelques secondes, cet article qui t'intéresse. Voilà, et MMG rappelle que pour les ressortissants des pays n'ayant pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis, par exemple, quand tu es français, que tu as un passeport français, tu n'as pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis, mais pourtant, les États-Unis ont annoncé il y a quelques semaines que pour ces ressortissants de pays n'ayant pas besoin de visa comme les Français, par contre, ils devraient être en capacité de fournir tout leur historique de réseaux sociaux pendant 5 ans, ainsi que les emails de leurs proches, etc. Enfin bon. Ça surveille tout le monde de partout, quoi. Ah oui, c'est un truc que vous pouvez trouver, ça. Alors, c'était une décision qui devait être entérinée par l'administration américaine, qui était annoncée. Ce que je n'ai pas vu, c'est la confirmation de cette validation par l'administration américaine de cette d'histoire de la surveillance de l'historique des réseaux sociaux des ressortissants qui n'ont pas besoin de visa. Je ne sais pas si ça a été validé. Il faut que je vérifie cette info, par contre. On en a parlé il y a quelques semaines. Et à Camille qui me dit l'entrée en vigueur, ça devrait être en février. Merci Sarel. Merci Kevin Mag. Voilà, l'info venait d'un document officiel sur le site de l'administration, on ne peut plus officiel comme source. Oui, l'info que ça devait entrer en vigueur, on est d'accord. L'info qu'il me manque, parce que j'essaie de mettre un peu de rigueur là-dedans, c'est est-ce que c'est entré en vigueur, est-ce que c'est confirmé, est-ce que ça va entrer en vigueur. Voilà, c'était, tu vois là. Qu'il voulait le faire, oui. Mais est-ce que c'est... Oui. Avec Trump et avec les États-Unis en ce moment, il y a les annonces et il y a la réalité des choses. Après, il faut vérifier, quoi. Donc, si vous voulez aller aux États-Unis dans les prochains mois, évitez de dire des bêtises sur Trump, hein, sur vos réseaux. Hein. Hein. Bon, j'ai pas prévu, moi, pour le coup, à court terme. Là. Oui. Bonjour Samuel, merci beaucoup pour ton travail. Merci J.V. Naël. J'ai une petite question, mais j'ai peur qu'elle ait déjà été posée. N'y a-t-il pas un vote de confiance pour Trump qui doit tomber dans quelques temps qui pourrait conduire à sa destitution? Alors, il n'y a pas ça aux États-Unis, il n'y a pas un vote de confiance. Voilà. Il n'y a pas tout à fait ça. Il y a une procédure qu'on appelle la procédure d'impeachment, qui est une procédure de destitution du président des États-Unis, hein, pour des raisons extrêmement graves. Elle a été déclenchée plusieurs fois dans l'histoire des États-Unis, notamment une fois pour Trump lors de son premier mandat, une fois pour Nixon aussi dans l'affaire du Watergate, mais elle n'est jamais allée à son terme, notamment parce que Nixon a démissionné juste avant. Peut-être d'être impeachmenté. Voilà. Donc, c'est une espèce de bombe atomique contre le président, mais l'impeachment n'est jamais allé à son terme. Voilà. Sachant que le président Trump a été visé par une procédure d'impeachment, mais qui est très très dure à mettre en œuvre. Il faut des majorités qualifiées au Congrès, qui sont très compliquées à avoir. Donc, il n'y a eu aucun impeachment dans l'histoire américaine. Alors il y a autre chose qui arrive, c'est effectivement, vous avez raison d'en parler, c'est ce qu'on appelle les élections de mid-term, hein, de mi-mandat, qui arrivent dans un peu moins d'un an. Renouvellement pour partie du Congrès, donc des élus de la Chambre des représentants et des sénateurs du Sénat. Et là, traditionnellement, les élections de mid-term sont des élections compliquées pour le pouvoir en place. C'est début novembre, me dit MMG. Traditionnellement, et là, les sondages annoncent effectivement des élections de mi-term qui vont être compliquées pour Trump, où il pourrait perdre la majorité au Congrès. Voilà, l'équivalent de notre Parlement, si tu veux. Donc, c'est pas une censure contre le président, mais c'est le fait qu'il pourrait être empêché, limité dans son pouvoir par un Congrès démocrate opposé à lui. Voilà. Voilà. Bon, voilà où on en est à peu près, quoi. De rien, Juvenel. Et ça pourrait faciliter une destitution. Ouais, enfin, Buran. Les conditions pour la procédure de destitution d'impeachment aux États-Unis prévue par la Constitution américaine sont tellement compliquées à atteindre qu'il ne faut pas trop compter là-dessus, quoi. Merci Camille. Allez, sujet suivant, puisqu'il y a quelqu'un dans le chat qui attend cet article avec impatience, qui voulait le trouver dans Le Monde et qui ne l'a pas trouvé dans le quotidien Le Monde, et qui est un sujet que je trouve vraiment passionnant, avec une interview d'un sociologue qui se penche sur pourquoi il est aussi compliqué pour les jeunes diplômés. Oh, ça c'est un message qui me fait bien plaisir. Un journaliste de Canal+, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et qui me donne de ses nouvelles. Je vais l'appeler, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis content d'avoir de ses nouvelles. Moi qui suis un peu sauvage et qui ne vois personne. C'est un des rares journalistes dans ma carrière avec qui j'ai une relation d'amitié. Bah, c'est un breton en même temps. Et non, c'est pas Morandini. Et c'est quelqu'un, moi je veux pas le citer parce que c'est, je suis pas sûr que, tu vois, je suis pas Trump, je lis pas les SMS qu'on m'envoie, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Et ben lui, je vais lui répondre, tiens. Voilà. Il me parle d'un projet. Alors donc oui, un sociologue s'interroge sur pourquoi pourquoi les jeunes diplômés aujourd'hui en France parfois ont beaucoup de mal à trouver un emploi malgré d'excellents parcours étudiants. Et tout à l'heure vous témoignez du fait que vous-même ou des proches avec des parcours étudiants impec étaient hyper déçus par le fait que bah, manifestement le marché de l'emploi ne les attend pas, quoi. Donc c'est assez c'est un sujet majeur dont on parle beaucoup dans MVP, ma vie pro, le magazine, enfin l'émission sur Twitch qui explore les voies pro pour que chacun trouve la sienne. C'est une émission qui se tient deux fois par mois sur cette chaîne Twitch et qui, dont le prochain numéro aura lieu mercredi prochain. Voilà. Mercredi prochain, on parlera notamment de ce constat. D'ailleurs, dans l'émission, je peux vous faire un petit peu le sommaire. C'est l'un des sujets qu'on abordera, la big press, comme on l'appelle. Je pense qu'il y aura peut-être Ava qui sera avec nous d'ailleurs et qui concernait, et Marie Palot, parmi les chroniqueurs, parmi les invités, qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va être amené dans une vie à avoir plusieurs métiers, quoi. On parlera un petit peu de ça. Voilà. Et donc, ce sociologue dans Le Monde Campus, se penche sur cette question et dit des choses que je trouve très intéressantes. Merci, Fan Ferrari. Merci, Sarah. Les études sont plus indispensables encore qu'avant, dit-il. Vous allez comprendre. Et en même temps, moins rentable qu'avant. Lisons. Alors le sociologue, il s'appelle François Dubé. Il explique comment l'allongement de la durée des cursus, sans garantie d'insertion, risque d'alimenter la frustration des étudiants. La frustration, elle est déjà là. Il y a quelqu'un qui me dit Kargorotte avec un diplôme d'ingé, j'ai eu aucun problème, le roi du pétrole même. Moi, j'ai beaucoup de gens dans cette communauté qui sont ingénieurs, qui sont diplômés et qui ont des vraies difficultés, même avec de très bons diplômes, à trouver un emploi. Donc, ça dépend vraiment des situations. La course au bac plus 5 atteint-elle ses limites? Le sociologue François Dubé, qui publie en 2024 L'emprise scolaire, estime que la généralisation de l'accès aux études supérieures n'a pas détruit les hiérarchies entre filières. Première question du monde. L'enseignement supérieur est devenu la norme. Comment on en est arrivé là? Un petit peu d'histoire. La massification scolaire a été l'alpha et l'oméga de la politique éducative française pendant près de 60 ans. L'idée était simple et au fond très noble. En ouvrant l'école, on allait régler les problèmes d'égalité des chances. Bon, c'est un petit peu optimiste, mais bon. Mais en même temps, c'est un mouvement qu'il faut saluer, hein. On a pensé que faire monter le niveau de qualification du plus grand nombre permettrait d'accroître la productivité, de renforcer la démocratie, puisque l'éducation est censée former des citoyens plus éclairés. C'était le projet, parce que c'est notre projet. Cette logique a porté ses fruits en termes d'égalité d'accès, puisqu'environ 8 jeunes Français sur 10 obtiennent le baccalauréat. Hein, évidemment, par rapport à il y a quelques dizaines d'années, c'est énorme. Et plus d'un sur deux poursuit des études supérieures. Et là encore, par rapport à il y a quelques années, quelques dizaines d'années, puisque moi je suis un vieux, j'ai un peu de recul, c'est énorme. Être étudiant est devenu la condition ordinaire de la jeunesse, alors que longtemps ce fut un statut un peu à part, y compris au sein des milieux populaires. Alors, bon, ça c'est ok, mais qu'en est-il en matière d'égalité des chances, puisque c'est un petit peu l'objectif? Et le sociologue répond. Si la massification de l'enseignement supérieur est un succès, sa démocratisation est très partielle. Les filières élitistes, notamment les grandes écoles ou les prépas, restent extrêmement fermées socialement. Alors que l'université, les BTS ou encore les IUT constituent une voie de promotion sociale pour une partie des enfants de milieux populaires. La massification n'a pas supprimé les hiérarchies, celles-ci sont juste devenues horizontales. C'est-à-dire qu'en gros, avant, pour simplifier, la hiérarchie avant c'était entre les gens qui avaient fait des études et pas des études. Aujourd'hui, comme tout le monde, en tout cas beaucoup de jeunes font des études, là, la hiérarchie, elle n'est pas verticale, elle est entre les diplômes obtenus. Bon, jusqu'ici, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est intéressant de le rappeler. Dans un contexte où la carrière professionnelle dépend fortement du diplôme, on assiste aussi à une multiplication de stratégies familiales pour creuser les écarts et faire jouer la concurrence. La valeur d'un diplôme est toujours relative. Ce n'est pas avoir le bac qui compte, c'est quel bac. Ce n'est pas aller à l'université qui compte, c'est quelle université. Cela va de pair avec une tentation forte de pousser les études toujours un peu plus loin pour se démarquer du reste des gens qui arrivent sur le marché du travail, ce que les familles plus favorisées, bien sûr, sont davantage à faire de même, puisqu'elles peuvent tanker. Elles peuvent supporter des études longues, parfois coûteuses, et même des changements d'orientation. Les enfants issus du milieu favorisé peuvent se permettre quelque chose que ne peuvent pas se permettre les enfants issus de milieux plus populaires. Ils peuvent se permettre de se tromper de filière, de changer, hein, et parfois de réussir. Alors que dans les milieux plus désargentés, eh bien, on n'a pas ce choix, on n'a pas ce luxe. C'est une évidence, mais on la rappelle. Une petite musique autour des limites de cette course au diplôme monte dans le débat public. Ça, c'est intéressant. De plus en plus, on entend « Ouais, les diplômes, ça sert à rien. » Ça sert à rien. Moi, j'ai le neveu d'un cousin de ma concierge. Il est bac plus 5. Et puis, voilà. Et puis, voilà, vous connaissez ce discours. Est-ce que vous partagez ce constat ? Réponse du sociologue. Pendant longtemps, malgré la massification, on a produit moins de diplômés que d'emplois qualifiés. Ainsi, le bac obtenu par 20% des élèves en 1970 était quand même plus rentable sur le marché du travail que celui obtenu par 5% des élèves en 1950. 1950, 5% des élèves avaient le bac. Hein. Mais la tendance est inversée. Les études du CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, montrent qu'avec l'inflation des diplômes du supérieur, il faut plus de titres qu'avant pour obtenir le statut de cadre. Par exemple, à une époque, niveau bac, tu pouvais devenir cadre, après ça a été bac plus 2, et maintenant c'est bac plus 5. Voilà. La sélection s'est aussi déplacée du bac vers la licence, puis le master. Sauf qu'on fabrique plus facilement, dans un pays comme la France, des diplômes que les emplois qualifiés correspondant à ces diplômes. Ces derniers étant dépendants de quoi ? Bah, pas du ministère de l'enseignement, hein, et pas de la volonté des uns et des autres de faire telle ou telle étude, mais ces emplois qualifiés dépendant de quoi ? Du marché du travail et de la conjoncture économique. Il y a clairement une baisse de la rentabilité relative des diplômes, dit-il. Hein, il vous faut plus d'argent pour acheter la même chose, dit-on, en économie. Ou plus de temps, ou plus de travail, plus etc. Vous avez compris. Allonger les études sans repenser le système conduit donc à fabriquer des diplômés fragiles et vulnérables aux aléas du marché du travail. Question du monde. Pourtant, l'insertion professionnelle reste très dépendante du niveau de diplôme. Où est le problème ? Parce que quand vous regardez les études, il y a quand même ce constat que, une fois qu'on a dit tout ça sur la démonétisation du diplôme, quand vous n'avez pas de diplôme, quand vous n'avez pas de diplôme et que vous arrivez sur le marché du travail, ce qui est le cas de certains jeunes, là vous vous rendez compte que le discours « le diplôme sert à rien », il est en partie faux. Parce que pour eux qui n'ont aucun diplôme, pour le coup, eux se rendent bien compte que sans diplôme, c'est no way, quoi. Et donc, Lacroix rappelle le résultat de ses études. L'insertion professionnelle reste très dépendante du niveau de diplôme. Où est le problème ? Les enquêtes, dit le sociologue, continuent effectivement. Donc, c'est la différence entre le cousin de mon neveu, il est dans cette situation d'enquête et de recherche sur le sujet. On prend un peu de recul. Les enquêtes continuent effectivement à montrer que plus on est diplômé, plus on a de chances de s'insérer rapidement et d'avoir un meilleur salaire. Voilà, point. Ça, c'est ce que disent les enquêtes. On ne peut pas ne pas jouer le jeu. Le diplôme est donc à la fois plus indispensable et en même temps, et c'est ça qui est très frustrant, moins rentable qu'auparavant. Hein, d'où le titre de cet article. Mais il sert malheureusement, ce diplôme, de plus en plus à classer les étudiants plutôt qu'à les former. Et là, on va s'interroger sur la qualité de notre système de formation. Un objectif biaisé qui accentue la déconnexion croissante entre les enseignements et les compétences professionnelles réellement nécessaires. Un étudiant sur deux sortant de licence générale décroche un premier emploi sans lien avec sa formation. Un autre effet de cette inflation des diplômes est l'explosion de l'enseignement supérieur privé. Depuis 2010. Celui-ci, qui prospère sur les fragilités du public, promet en effet des formations plus professionnalisantes parfois, un accompagnement plus personnalisé qu'à l'université, une insertion rapide. Bon, qui dit privé dit aussi parfois des coûts d'études que toutes les familles ne peuvent pas payer, bien sûr. Ces promesses, bah voilà, le sociologue rappelle, ces promesses ne s'adressent qu'à une partie de la population capable de payer pour étudier. Question du monde. Ces limites de la massification sont régulièrement avancées par les tenants d'une vision ultralibérale de l'enseignement supérieur. En quoi votre analyse s'en distingue-t-elle ? Et lui répond, nous ne dénonçons pas les dérives de la course au diplôme au nom de l'élitisme ou d'une méritocratie, ni en raison d'une nostalgie de l'école d'avant ou d'une vision utilitariste des études qui devraient être soumises à la demande du marché du travail. Vous savez, c'est le discours parfois tenu par... par certains libéraux, disant « Mais c'est quoi ces étudiants en sociologie, là ?»« hein? Mais pas du tout. Moi, ma boîte, c'est pas de ça dont elle a besoin. Hein? Les études, c'est fait pour former un gars pour que moi, j'en ai besoin dans mon usine. » Vous connaissez ce discours. Voilà. Donc, il répond à ça. Vision utilitariste des études qui devraient être soumises à la demande du marché du travail. En gros, c'est le marché du travail qui doit définir quelles études tu dois faire. Certains vont dire « Bah oui !» Et d'autres vont dire « Bah non, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. » Le problème est avant tout démocratique et politique. On a laissé croire à des générations entières que la prolongation des études garantirait une position sociale à la hauteur de l'investissement. Aïe. Or, cette promesse ne peut plus être tenue pour une partie des jeunes qui ont pourtant joué le jeu scolaire. Ils ont travaillé, parfois dur, ils ont eu des résultats, et puis ils arrivent sur le marché du travail et il ne se passe pas grand-chose. Ce décalage ne peut que nourrir chez eux un sentiment de déclassement et de frustration, et alimenter un clivage politique entre les vainqueurs et les vaincus de cette compétition scolaire dont les populismes font du beurre. Lily Braise écrit un message très intéressant dans le chat et nous dit « Bonjour Sam, je travaille aujourd'hui dans une école qui forme des ingénieurs dans plusieurs domaines et ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'effectivement les écoles privées ont leur réseau d'alumni, les diplômés avec qui on garde contact à vie, qui créent ces relations inter-écoles pour les apprentissages, pour les emplois en sortie de diplôme et c'est des réseaux qui grandissent grâce au nombre de diplômés augmentant au fur et à mesure. » Question du monde. Certains proposent de réduire la durée des études. Ça, c'est un discours qu'on entend. Hein. Les études longues, ça sert à rien. Et donc, il faudrait faire des études plus courtes. Et puis, tant qu'à faire, pour former vraiment des gens aux besoins des entreprises. Certains proposent de réduire la durée des études pour améliorer la situation. Quel autre levier activer ? Réponse du sociologue. Réduire la durée des études au nom de l'efficacité économique n'a aucun sens. Ok, bim. La vraie question est celle de leur utilité pour les individus comme pour la société. Le problème n'est pas que trop de jeunes étudient, parce qu'on entend ça, mais que le diplôme soit devenu l'unique clé de reconnaissance sociale, alors que son objectif initial était de venir valider la maîtrise de connaissances et de compétences utiles dans la vie, tout au long de la vie, pas seulement pour un job. Hein. Face à cela, il ne faut pas avoir peur de défendre, y compris quand on est de gauche, une plus grande proximité entre les études et l'emploi, afin de redonner de la valeur au diplôme. La revanche actuelle des BTS, des IUT, des lycées professionnels, ainsi que le succès de l'apprentissage montrent qu'il existe d'autres voies aussi vertueuses que celles menant par défaut à un bac plus 5. Il n'est évidemment pas question de supprimer les filières plus généralistes, mais, je trouve ça très intéressant, de permettre que les étudiants qui les suivent puissent plus facilement avoir des expériences professionnelles à côté, voir leurs compétences acquises hors des études plus reconnues, prendre une pause pour faire autre chose, voilà. Bref, il faut remettre de la pluralité dans les modalités d'études supérieures. Le sociologue dit quand même que, voilà, dans la façon dont on forme les étudiants aujourd'hui, notamment à niveau bac plus 5, dans la formation, il y a un truc qui ne va pas. Et il faut sortir de cette vision de l'orientation, poussant les étudiants français à s'engager rapidement dans les études qu'ils doivent suivre à toute vitesse, sans se retourner et le plus loin possible. Bon, moi qui vais devoir me poser cette question pour mes enfants dans très longtemps, parce qu'ils sont très jeunes, bah, je trouve que ça me fait réfléchir. Ça. Les bacs pro, les métiers manuels, moqués depuis des années par le système scolaire classique. Narco, tu as raison, c'était le cas. Et finalement, ça s'inverse, c'est une belle revanche. Dans mon école d'ingénieur, on avait 3 semestres en entreprise, c'est beaucoup quand même. Me dit Arcange, et malgré cela, je ne me suis pas senti préparé au vrai monde du travail. Pourtant, c'est pas rien, 3 semestres. J'en ai des messages de copains ce matin. Ah, c'est très drôle. J'ai une amie que j'aime beaucoup, journaliste, qui m'envoie un SMS pour me parler d'un projet. Et le projet, est le même que celui de mon copain d'il y a 5 minutes. Bon, c'est marrant, ces deux personnes, je ne savais pas qu'elles se connaissent, mais je les aime beaucoup toutes les deux, et c'est des amis aussi. Bon, c'est formidable. Merci, Tinkou. Tinkou me précise que le document sur les entrées sans visa, vous savez, dont on parlait tout à l'heure pour les pays qui n'ont pas besoin de visa pour aller aux États-Unis mais qui devraient être soumis à une surveillance accrue sur leurs activités numériques, devrait entrer en vigueur le 9 février. Voilà. Sauf si quelqu'un décide de saisir la justice à ce propos, je crois. C'est ce que m'a dit Camille également dans le chat tout à l'heure. Ok, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est une info importante. Je vous lis. Hein. Regardez l'étoile. Mais oui, Denis Bertrand a raison. Regardez l'étoile. Ingénieur. Il finit streamer. Quelle tristesse. Hein. Et Denis a raison. Mon fils hésite entre développeur et pâtissier, me dit des copons. Et sincèrement, je ne serais pas déçu s'il choisissait pâtissier comme formation. Faut surtout qu'il cherche choisisse la filière où il pense qu'il va s'épanouir le plus et avoir du plaisir, le plaisir étant un moteur d'une force incroyable après dans la vie pro bien sûr. On était souvent pris de haut les bacs pro comptables de formation d'Isine Raziel. On a vu la différence dans le monde du travail. J'avais bien plus de connaissances que ceux qui n'avaient pas, qui n'étaient pas passés par les études, que ceux qui sont passés par les études sup. Pardon. Il y a plein de deux qui j'ai eu la chance d'avoir pu faire mon master 2 en alternance, sinon j'aurais pas eu les sous, j'aurais dû abandonner. Ça m'a permis aussi de donner du sens, peut-être augmenter les formations en alternance. Alors le problème, c'est que la tendance aujourd'hui, elle est l'inverse. Alors sous le président Macron, il y a eu un vrai boost donné à l'alternance en France. On peut lui reprocher plein de choses, mais ça c'est un fait. Il y a eu un vrai coup de boost donné à l'alternance en France sous Macron. Le problème, pour reprendre une expression du même président, ça a coûté un pognon de dingue. Voilà, parce que les résultats sont formidables, mais ça a coûté très cher. Et donc du coup, aujourd'hui, ils sont en train de réduire la voilure sur l'alternance, pas parce que ça marche pas, mais parce que ça coûte très cher. Donc c'est dommage, mais voilà. N'a plus de sous, n'a plus de sous. Je vous lis, hein, je vous lis. Pour le coup, il doit plus rapporter à l'État en tant que streamer qu'en tant qu'ingénieur, je pense, à propos de, me dit Jean Valdu à propos d'étoiles. T'es en train de dire que le Rayou, il est... C'est un richou ? Hein ? Tu veux dire que ça dégage du cash flow ? Il y a de l'IS, il y a de l'impôt sur les sociétés ? Ça taxe les dividendes ? Il y a I am Diane Fox qui dit « Oh, que oui, le coquin !» Comment ça, il cache son or ? Comment ça, il a de sacrés boulasses ? Comment ça, c'est un ultra riche, mon pauvre Ayou ? Laissez-le tranquille, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Stop. Sugar, on est persuadé, il gagnera jamais autant en ingé. Tous les streamers sont des richards ? Comment ça, Alastair ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Putain, le gars avec sa perceuse dans la cour, là, ça va le... Mais oui, je sais, Marceau, mais ma table de mixage, là, je veux retravailler sur les sons. Ils sont pas à un bon niveau. Je suis un peu maniaque. Il est pas mal cet article. Hein. J'espère que la perceuse vous dérange pas trop, les amis. Je n'y peux rien. Je peux fermer la fenêtre, à la rigueur. Parce que ça stream... Le 22 janvier, ça stream fenêtre ouverte ici. Hein. Vous l'entendez à peine ? Ok. Sans oublier qu'Étoile est la dernière personne à avoir filmé les bijoux volés du Louvre. C'est une info. C'est une vraie info. Étoile a été littéralement la dernière personne à avoir filmé les bijoux volés du Louvre. On dit ça ? On dit rien, bien sûr. Mais c'est vrai que l'ami Rayou ne semble pas avoir de problèmes financiers, hein, dans sa vie de rêve partagée entre Montpellier et Paris, hein. Peut-être qu'il a un jet, le mec raconte n'importe quoi. Peut-être qu'il a un jet comme Trump avec écrit Rayou en gros dessus, on sait pas. Voilà. Bon, après voilà, d'où vient cet argent ? Le mec il pète un cap totalement. Laissez-le tranquille. Vous entendez la perceuse ? Je viens d'avoir un flash, une illumination. Vous savez ce que c'est, ça ? Le bruit, la perceuse dans la cour, là ? Vous savez ce que c'est ou pas ? Moi, je pense... J'ai deux hypothèses. Ok. Ou c'est un gars ou une fille qui est en train de percer sur Twitch. Voilà. Et c'est pas facile. Quelqu'un rappelait dans le chat tout à l'heure que la plupart des streamers streamaient devant 5 viewers, voilà, ou moins. Voilà. Ou c'est quelqu'un qui est en train de percer sur Twitch. Voilà. Et là, je me méfie de la concurrence, moi. Attention, hein. Le matin, c'est pour moi. Hein. Vous touchez pas. Voilà, ça, c'est mon créneau. Donc, ou quelqu'un en train de percer sur Twitch, voilà, et est en train de me narguer, et de me narguer à quelques mètres, en me disant, j'arrive, ok, ça, on n'aime pas. Donc, je vais descendre dans la cour, je vais le démarrer. Ou c'est Rayou qui est en train de s'entraîner à la disqueuse sur, je sais pas moi, des vitrines de protection de bijoux, par exemple, ou des portes ou des coffres-forts. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, je pense qu'il y a une enquête à faire. Je dis ça, je dis rien. Sujet suivant. Alors, ah, la télé. Moi, je connais, j'ai fait un petit peu. Moi, je suis au carrefour de ces deux univers-là. Je viens plutôt des médias traditionnels, radio, télé, vous le savez. Et aujourd'hui, je passe plutôt mon temps sur ce que j'appelle les nouveaux médias, qui est une vieille expression, on va dire les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Alors, on a un dossier dans les Échos sur... Putain, la télé, ça va pas du tout, hein, ça va de moins en moins. Hein. La télévision historique de plus en plus concurrencée par le streaming et le web. Et puis, on a un petit papier sur France Télévisions qui se réorganise pour accélérer son virage numérique. Ce qui est vraiment très impressionnant. Alors, lisons. Oh, j'en peux plus, je vais fermer la fenêtre. Je vais aller voir le streamer qui perce là. Non mais oh ! Non mais oh ! Alors, qu'est-ce qui va pas avec la télé ? En 2025, le temps passé sur Internet dépasse celui devant la télévision, c'est une première. C'est la première fois que ça bascule comme ça. Évidemment, la concurrence d'Internet sur les médias traditionnels, on la connaît, c'est une évidence. Mais le temps passé sur Internet qui dépasse celui devant la télé, c'est une première. Voilà. Les chaînes traditionnelles tentent de s'adapter en renforçant leurs plateformes de streaming et en nouant des partenariats stratégiques. La bascule est donc en marche, écrit qui ? Les Échos, page 16. Dans un univers des médias bousculé par l'avènement du streaming, le temps passé par les Français devant les programmes de télévision classiques n'a jamais été aussi limité. Voilà. Selon Médiamétrie, qui publiait mercredi son bilan de l'année télé, voilà la source, la durée d'écoute moyenne de la télévision a baissé de 13 minutes l'an dernier à 2h45 minutes en moyenne par jour. Moins 13 minutes l'an dernier. Moins 13 minutes, puis moins tant de minutes l'année dernière, et puis moins de tant de minutes l'année prochaine. Voilà. À titre de comparaison, et pour la première fois dans les relevés faits par l'Institut, le temps passé sur Internet dépasse celui passé à regarder des programmes télévisés. Internet, c'est 3 heures par jour par individu, plus 20 minutes par rapport à 2024, un record. Ça se croise. Ça se croise. L'explosion des usages vidéo sur le web explique en partie cette croissance, même si une partie passée sur Internet intègre aussi la consultation des réseaux sociaux. Et ça scrolle, et ça scrolle, et ça scrolle aux toilettes, on vous voit, peut-être même que certains sont aux toilettes en train de scroller. Cependant, quand on se concentre sur le domaine de la vidéo, la France n'est pas encore au niveau des États-Unis, où un autre cap a été franchi l'an dernier aux States. Les chaînes de télévision traditionnelles ont été dépassées par les plateformes de streaming. Donc même pas par réseaux sociaux plus streaming. mais que streaming, avec 47% du temps de visionnage passé devant Netflix, devant Disney+, devant Prime et autres, compte 40% pour la télévision traditionnelle. La télévision demeure le premier contact vidéo quotidien des Français, pointe néanmoins Médiamétrie, avec près de 46 millions de personnes chaque jour en contact avec un programme télévisé, soit environ 72% de la population nationale. Donc oui, les médias traditionnels perdent en puissance, mais c'est un mouvement qui est assez lent. Hein, les audiences baissent, le nombre de Français qui regardent la télé baisse, ça se déporte sur Internet de plus en plus. Oui, mais c'est un mouvement qui est lent. Donc la télé n'est pas morte encore. L'univers du digital, quelqu'un qui parle du digital, l'univers du numérique, audio, vidéo, e-commerce est très varié, on ne peut pas directement le poser à la télévision, tempère Julien Rosanvallon, qui est directeur général adjoint de Médiamétrie. Les publics ne se détournent pas de la télévision, mais aujourd'hui, il y a un élargissement du champ concurrentiel de l'univers vidéo. La consommation des contenus vidéo, qu'ils soient sur la télé ou sur le web, évolue et de ce fait de plus en plus à la carte, bon ça on sait. Les Français peuvent à la fois consommer des contenus de chaînes traditionnelles en linéaire, basculer sur les plateformes de ces mêmes chaînes, passer du temps sur YouTube ou TikTok. Bref, ça s'hybride. Cette multiplicité des usages vient gonfler la consommation du contenu vidéo. Bon, là, on a des chiffres, blablabla. Voilà, on en vient à ce qui m'intéresse. Les chiffres, ils confirment tout ça. Cette évolution pousse les chaînes à s'adapter. Merci Robin Price. TF1, France Télévisions ou encore M6 ont musclé leur propre plateforme de streaming ces dernières années. Deux enjeux sont particulièrement importants dans cette bataille des acteurs de la vidéo pour l'attention. D'une part, il faut de la profondeur de catalogue, comme illustré par la volonté de Netflix de racheter Warner Bros. En France, les contenus vidéo en ligne, nombre de titres uniques de programmes proposés par les plateformes payantes ont augmenté de plus 31% l'an dernier. Pour les plateformes gratuites, France TV, France.tv, TF1+, M6+, Arte, cet indicateur a même doublé. D'autre part, dans le souci de rester visible et d'élargir les publics, les acteurs du PAF. Alors le PAF, c'est pas un titre de film, hein. C'est le paysage audiovisuel français. Et les plateformes internationales multiplient désormais les alliances, suivant l'exemple de Canal+, qui depuis longtemps agrège les contenus des autres éditeurs. Amazon Prime Video embarque ainsi depuis quelques jours les programmes de M6+ dans ses chaînes. C'est un DJ ? Ouais, c'est aussi un nom, c'est aussi un DJ. Le DJ PAF. Il est depuis l'an dernier une porte d'entrée aussi pour les programmes de France Télévisions. De leur côté, Netflix et TF1 ont noué un partenariat inédit. Le roi du streaming distribuera à partir de juin prochain les chaînes de TF1 et la plateforme TF1+, une première mondiale. Ok. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur là ? J'ai bien envie de lire cet édito. Le téléviseur pleure. Le téléphone... Oh là, c'est Claude François ça. C'est autre chose. Le téléviseur pleure. Faut-il voir l'écran de télé à moitié vide ou à moitié plein ? Côté positif, pour les acteurs historiques de la télé, la soif pour les contenus audiovisuels n'a jamais été aussi élevée. Nous n'avons jamais disposé d'autant d'écrans et la consommation d'images a longtemps été collective et réservée au salon et maintenant elle est devenue mobile et personnelle. Vous avez que ça à foutre, quoi. Moi, je traduis hein, en termes moins châtiés. Hein, vous avez que ça à foutre de regarder les écrans. Donc là, l'appétit pour les contenus audiovisuels n'a jamais été aussi élevé. Ça bosse plus. Hein. T'as de feignasse. Je traduis moins. Le téléviseur n'a plus le monopole. Les smartphones, les tablettes, les PC permettent de consommer sans compter de la vidéo dans le métro ou dans sa chambre. Les plus vieux se souviennent qu'on était obligé d'éteindre sa télé quand le robinet à images ne diffusait plus rien. J'ai connu. Les plus jeunes doivent, eux, se sevrer pour se débrancher d'un flot qui ne s'interrompt plus. À une époque, tu t'arrêtais de regarder la télé, là, parce qu'il n'y avait plus de programme. Hein. Ça s'arrêtait. Hein. Après, c'était écran noir. J'ai connu, moi, ça. Eh oui. Les plus jeunes, eux, au contraire, doivent se sevrer pour se débrancher d'un flot qui ne s'interrompt plus. La mire. Côté négatif, les barrières à l'entrée pour les créateurs comme pour les diffuseurs de contenu se sont considérablement abaissées. On peut tous devenir producteurs d'images. Et les chaînes qui furent les actrices d'un oligopole sont désormais entourées de concurrents YouTube, Netflix, en passant par tous les groupes de streaming comme les réseaux sociaux. Il y a l'Olivier qui me dit « Mon grand-père a vendu une maison pour deux télés quand elles sont arrivées. » Waouh, j'espère qu'elles ne sont pas tombées en panne au bout d'une semaine. Hein. Pour les acteurs historiques de l'audiovisuel, la digitalisation, bon, on n'est pas fou hein, de digital, mais c'est pas grave, de leur univers était d'abord quelque chose de positif. Elle a permis de multiplier les canaux en lançant de nouvelles chaînes qui permettaient d'amortir des programmes plus facilement en jouant sur la carte de la rediffusion. Pour un coût relativement faible, le nombre d'écrans publicitaires à commercialiser a pu augmenter et les chaînes les plus puissantes, qui étaient encore peu concurrencées, pouvaient malgré cela encore faire grimper le prix des spots. Mais nous avons passé un point de bascule. La consommation audiovisuelle progresse, mais la fragmentation s'accélère. Aïe ! L'audience des plus grandes chaînes ne cesse de s'effriter. Aïe ! Et en parallèle, les géants du numérique qui peuvent vendre un ciblage publicitaire de plus en plus pointu marquent des points sur le terrain de la vidéo, ce qui leur a permis de devenir la principale destination des annonceurs. Au-delà des aléas conjoncturels que connaît la télé aujourd'hui, les recettes publicitaires risquent de baisser de façon structurelle pour la télé linéaire, alors que les coûts des programmes ont, eux, peu de chances de s'effondrer. Pour faire face à la concurrence des nouveaux acteurs, il faut investir dans des programmes de qualité qui permettent de se différencier. Alors là, petite pause. Les télés aujourd'hui, elles ont moins d'argent qu'avant. Hein, les budgets se réduisent. On dit à ces gens-là, du coup, il faut faire des programmes de meilleure qualité pour plus attirer les gens, avec moins d'argent. Facile. Et les géants du streaming, qui pour certains d'entre eux, comme YouTube, se contentent essentiellement de diffuser des contenus qu'ils ne financent pas, peuvent même, aux États-Unis en particulier, contribuer à faire grimper le prix des droits sportifs. Les TF1 et les M6 de ce monde restent rentables aujourd'hui, mais l'évolution de la consommation, les contraintes réglementaires, leur taille modeste face à des multinationales du numérique font qu'ils risquent surtout d'avoir à gérer de la décroissance dans les années qui viennent. Voilà. Hein, parce que tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui me disait « Ah bah moi, la télé, je la regarderai de nouveau quand ils mettront moins de pubs. » Ou « Moi, la télé, je la regarderai de nouveau quand il y aura de meilleurs programmes. » Non, mais c'est un cercle vicieux parce que comme la télé est moins regardée, leurs recettes, notamment publicitaires, s'affaiblissent. Ils ont moins d'argent à mettre dans les programmes et ça met de la rediffusion et ça lance moins de nouveaux formats et ça ferme même des émissions et ça met de la rediff ou ça ferme des chaînes, Game One. Voilà. Et donc comment tu mets plus de moyens pour reconquérir un téléspectateur alors que des moyens, tu en as de moins en moins. C'est le serpent qui se mord la queue. Je ne sais pas qui est le serpent, Camille, mais on pourrait le dire comme ça, oui. Je vous lis. Oui, tout à fait. Batman a raison. Les chaînes essayent de plus en plus de supprimer le lien entre Internet et... Attends, j'ai un petit plaisir. Vous me le laissez, s'il vous plaît ? J'ai un petit shiny dans le chat. Et un petit historique. Oh, il n'y a que deux messages. Oh, c'est triste. Ouais. Merci, Kagami Taiga. Taiga, c'est un joli pseudo par ailleurs. Je trouve ton historique est un petit peu faiblard. Il y a que deux messages. Il y a un bonjour et il y a un petit pavé qui est très intéressant. J'aimerais en savoir plus. J'aimerais que tu nous écrives un peu plus. C'est pour le content. Parce que, ouais, le défi aujourd'hui, c'est le contenu. C'est qu'est-ce que tu proposes aux viewers ici, puisqu'on est sur Twitch. Quelle est la densité du programme. Voilà, donc là, j'aimerais que tu me fournisses un peu plus de contenu, si tu veux. N'hésite pas à revenir, même tous les jours, pour poster des choses. Je le lirai avec plaisir. Donc oui, j'étais en train de lire un message intéressant sur la télé qui essaie de supprimer le lien avec Internet. Alors, c'était où ? Avant que je sois interrompu par la lecture d'un message qui était assez intéressant. Voilà ! Non, je l'ai perdu. Ça parlait de Joyka, ça parlait de Magla. C'est intéressant. Alors, je vais essayer de te retrouver. Ah, je t'ai perdu. Je vais essayer de te retrouver. perdu. Bref, de mémoire, donc le message disait, pardon, hein, je ne t'ai pas retrouvé, la télé essaye de gommer ce fossé avec Internet. Vous voyez Magla invité dans Dals, voici Joyka qui publie en exclusivité une vidéo sur RMC, c'est ça je crois. Oui, bien sûr qu'il y a des tentatives. Et là, on va lire un papier sur comment France Télévisions se réorganise pour accélérer son virage numérique, par exemple. Ah voilà, j'ai retrouvé le message. Merci, c'était Batmat, merci Nix. Donc les chaînes essayent de plus en plus de supprimer le lien entre Internet et télé. Magla et Marcus dans Dals. Oui, alors pas Marcus, oui, l'autre. Joyka qui teste des lieux une étoile sur RMC Découverte, ça montre une tentative de s'ouvrir. La télé doit évoluer, sinon elle risque de disparaître. Sauf que, parfois il y a des déceptions, parce que dans les tentatives dans le passé de mettre en avant... Par exemple, des youtubeurs célèbres, très puissants, des créateurs de contenu à la télé, eh ben, souvent, les audiences sont décevantes. Pourquoi ? Parce que le public de la télé n'est pas un public. Voilà, Chouga le dit, c'est pas le même public. N'est pas ne connaît pas souvent ces créateurs de contenu. Hein, tu parles à un plus de 50 ans en France de Michou ou de Squeezie ou de Inox ou de d'autres ou de on parlait de Magla à l'instant ou de Joyka, t'es pas sûr que t'aies une connaissance et donc les chiffres que je vois ces dernières années des apparitions des créateurs de contenu hyper célèbres dans les médias traditionnels, les audiences sont très décevantes. Et donc, ces tentatives d'hybridation, pour appeler ça comme ça, que beaucoup de chaînes de télé essayent, parfois sont très décevantes pour les télés qui l'ensaillent. Hein, et donc, elles sont après retour dans le bureau et on se dit « Putain, on n'y arrive pas, quoi. C'est compliqué. » Je vous lis. Vraie question, est-ce que la télé va définitivement mourir du coup ? Mais on ne sait pas ça. Parce qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est quelle va être la capacité des dirigeants de ces médias traditionnels pour s'adapter, pour se transformer pour, et ça, je ne sais pas quelle va être la qualité de cette réponse. Peut-être que la télé va réussir. Peut-être que la télé va se transformer. Peut-être que ce qu'on appelle la télé aujourd'hui, dans 10 ans, aura radicalement changé et va cartonner. Ça, je ne sais pas, parce que ça va dépendre de la qualité des réponses. Les télés s'arrachent les cheveux depuis des années sur le nouveau modèle à inventer. Et moi, je n'ai pas de boule de cristal. Et donc, je ne sais pas quelle va être la qualité de leurs réponses. Peut-être qu'ils vont réussir. Aujourd'hui, je constate que non. Les exemples de réussite ne sont pas massifs, ne sont pas ultra nombreux. Malgré que ça fait des années que ça infuse, que ça fait des réunions, que ça demande des études, des enquêtes, tu vois. Donc, mais peut-être que dans quelques années, on va se dire, mais ouais, ils ont réussi. Certains acteurs vont réussir ce truc-là, quoi. C'est compliqué aussi parce qu'il y a des process de travail, il y a des habitudes, il y a parfois des lourdeurs. Hein. On parle d'entreprises qui ont beaucoup de salariés, à qui on a demandé de faire des choses pendant des années, voire des décennies, et subitement, comme France Télévisions dit qu'il veut essayer de le faire dans l'article qu'on va dans un instant. On dit, il va falloir faire autre chose. Mais sans l'expérience, sans la culture, sans parfois l'âge aussi, parce qu'il y a aussi une question générationnelle. C'est pas facile. Mais ce sont juste des défis. Qui nous dit que ces défis ne vont pas être relevés ? Merci, Défécator. Voilà. Ça, je ne peux pas vous répondre. Alors, comme je vous le disais, alors, moi, vivant ça de l'intérieur, en tout cas depuis le groupe France Télévisions où j'ai passé 17 ans, même si j'ai travaillé avant dans d'autres entreprises, mais où la concurrence d'Internet n'était pas aussi forte. Donc, j'ai constaté, effectivement, dans un groupe comme France Télévisions, que le problème, ils le connaissent. C'est-à-dire que, et puis c'est vrai pour TF1, c'est vrai pour M6, c'est vrai pour Canal+. C'est-à-dire que le sujet, on voit les téléspectateurs partir sur Internet, ils sont pas débiles, les chiffres, ils les voient. OK. Donc, ça s'inquiète. Donc, ça réfléchit. Donc, ça fait des réunions. Donc, ça tente des trucs. Voilà. Jusqu'ici, parfois, il y a des petites réussites, des petits machins. On se dit, Dalcy, par exemple, Danse avec les stars Internet, pour moi, était une réussite. Tout le monde a salué le programme. Bah, pourquoi ils n'ont pas refait Dalcy, par exemple? C'est intéressant. Oui, je pourrais prendre d'autres exemples, vite fait comme ça. Boat, excellent programme présenté par Zerator sur sa chaîne Twitch. Coproduction avec France Télévisions. D'accord? Ils ont fait une année. Tout le monde, les audiences étaient incroyablement bonnes, l'émission était super, c'était drôle, t'apprenais des trucs, et c'est super bien animé par Zerator. Voilà. J'adore Boat, c'est très sympa, me dit Jekyll. Bien sûr, ils ont fait une saison, jusqu'en juin dernier. En septembre, on a attendu la deuxième saison. Il n'y en a pas eu. Et on nous a dit, d'après les bruits de couloir, bon, vous inquiétez pas, ça revient en janvier. On est le 22. Bon. Alors, parfois, il y a des trucs qui fonctionnent, mais ça ne se poursuit pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Zera et je ne suis pas France Télévisions. Mais il y a eu un truc. Parce que est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que France Télévisions a un vrai problème de budget, hein? Il y a des plans sociaux, on n'embauche plus, on baisse les budgets des émissions, on supprime certaines émissions, on en rediffuse certaines, etc. Donc le problème budgétaire à France Télévisions, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Les dirigeants de France Télévisions ne cessent d'en parler, il y a moins de sous. Donc est-ce que c'est un problème de budget? Je ne sais pas. Mais cette réussite, par exemple, flagrante pour le coup, émission de qualité, émission avec un vrai succès populaire, coprod France Télé Zera, elle a disparu. Alors que c'est un des rares trucs réussis dans les coprods télé-internet. Alors voilà, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question de moyens, c'est une question de... Ils ont été déçus de l'acquisition en termes d'audience sur leur propre chaîne, puisque l'émission était diffusée à la fois sur la chaîne Twitch de Zera et celle de France Télévisions. Est-ce qu'ils ont été déçus en termes d'acquisition côté France Télévisions? Je ne sais pas. Mais vous voyez, parfois, globalement, ça ne marche pas très bien. Et quand ça marche... Ça se continue pas. Pourquoi il n'y a pas eu de Dalcy 2, par exemple? Tout le monde a dit que le Danse avec les stars Internet était une réussite. Pourquoi il n'y en a eu qu'un? Voilà, je pose des questions comme ça, moi. Donc, penchons-nous sur France Télévisions, puisqu'on en parlait. Il y a eu une annonce il y a quelques jours. France Télévisions se réorganise pour accélérer son virage numérique. Alors, c'était passionnant. On était totalement hypés, enfin moi. L'article que j'ai lu il y a quelques jours nous disait, vous allez voir ce que vous allez voir, la patronne de France Télévisions annonce que France Télévisions va prendre un virage radical en consacrant 60% de ses moyens, ou en tout cas demandant 60% de ses salariés maintenant de bosser full numérique. L'annonce est dingue, hein. Et la déclaration, c'était, vous allez voir ce que vous allez voir, maintenant 60% des gens de France Télévisions vont travailler pour Internet, pour les réseaux, pour les plateformes. Je dis, waouh, on lit l'article, rien, on n'a rien compris. Zéro annonce concrète. Donc, il y avait l'annonce, mais on ne voyait pas du tout quelle forme ça allait prendre. C'est bien le sujet. Parce que les acteurs traditionnels de la télé aient compris qu'il fallait faire quelque chose, ça fait 10 ans qu'ils le disent, ou 15 ans. Mais ce qu'il faut faire concrètement, personne ne le sait. L'article qu'on a lu il y a quelques jours nous montrait ça. C'est-à-dire qu'une ambition, une intention, une annonce, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Peut-être qu'ils ont des supers idées. C'est toujours pareil, je n'ai pas de boule de cristal. France Télévisions se réorganise pour accélérer son visage numérique. Quand je trouve l'article ce matin dans Les Échos, je me dis, ok, je vais apprendre plein de choses. Lisons, j'espère que je ne vais pas être déçu. Malgré les contraintes budgétaires, hein, le groupe public met le cap sur le streaming. Alors moi, je vois ça, je dis, ok, let's go. Ce jeudi, sa PDG, Delphine Ernotte, présente en interne, donc c'est aujourd'hui un organigramme qui concerne 60% des effectifs. Vous voyez, j'invente pas les infos, hein. C'est une nouvelle qui ne devrait pas laisser insensibles les députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public dont les auditions seront prises cette semaine. France Télévisions se donne un nouveau cap. J'ai encore un petit peu de temps, je peux rester avec vous. J'ai un rendez-vous à 12h30. Un streaming first. Streaming first. La patronne de France Télévisions, il y a quelques jours, elle a dit « Maintenant, France Télévisions, c'est streaming first. » Moi, je vois ça. Je suis hypé. Je me dis « Ah bon ?» Et engage une vaste réorganisation. Ok. Les détails de la nouvelle architecture du groupe audiovisuel public figurent dans un dossier de 50 pages, à destination des syndicats, en interne donc, que les Échos ont visionné. Delphine Ernotte doit le présenter aujourd'hui lors d'un CSE au siège de l'entreprise. Ce virage technologique majeur,
ok,
implique une montée globale des compétences en streaming des effectifs,
ok,
et également 200 recrutements à l'horizon 2030 sur les métiers numériques, data, CM, community management, marketing numérique,
ok,
aujourd'hui porté par des prestataires. Donc déjà, on nous file l'info que jusque-là, tout ça, c'était plutôt fait avec des prestats externes. Comme l'indiquait le Figaro en début de semaine, une direction, ah bah ça c'est l'article qu'on a lu, une direction IA, il va y avoir une direction intelligence artificielle. Il va y avoir une direction IA à France Télévisions. Et une autre du produit et des technologies seront également créées et rattachées directement à la PDG. Il va y avoir une direction IA à France Télévisions. Un poste de DG adjoint chargé des offres et de la stratégie éditoriale verra le jour. Même si aucune nomination ne sera faite avant mai-juin, il se murmure, donc je veux le dire tout doucement, depuis plusieurs semaines, que Stéphane Cid-Bongomez, l'actuel directeur des antennes et des programmes, serait bien placé pour ce nouveau rôle. Ok, donc je le dis pas trop fort parce que ça se murmure. En vrai, blague à part, c'est intéressant parce que Stéphane Cid-Bongomez, c'est le numéro 2 du groupe. Et on nous dit que peut-être il pourrait devenir le DG des offres et de la stratégie éditoriale. Donc, voilà, on prend les forces existantes et on les reconfigure. Dans un contexte budgétaire contraint, traduisé, il n'y a plus de thunes, la plateforme France.tv touche en moyenne plus de 40 millions de Français par mois. Le but est d'amplifier la dynamique numérique pour répondre au bouleversement de l'industrie et des médias. En effet, là, on est encore sur du constat. La baisse de la durée des coûts, des recettes publicitaires, du média télé se poursuit, en partie à cause de l'essor de YouTube, de Netflix, blablabla. Même si ces chaînes linéaires garderont un point important chez France Télévisions, on estime qu'à l'horizon 2030, ok, c'est dans 4 ans, la consommation des contenus se fera majoritairement en ligne. Plateformes, réseaux sociaux. D'où le besoin d'enclencher la plus profonde bascule de structure depuis que Delphine Ernotte a pris les commandes du groupe en 2015. Et toujours la même chose. Le constat, mais le constat, on le connaît depuis des années. Et ce qu'on n'a pas, c'est comment ils font. C'est toujours le même problème. À côté de la direction générale adjointe de la gestion de la production et des moyens, Finance RH, le nouveau poste de directeur général adjoint à la stratégie éditoriale, donc qui pourrait être tenu par Stéphane Cid-Bongomez, va chapeauter à la fois un pôle contenu, organisé par des grandes missions, savoir, vie quotidienne, création, et non plus par genre de programme, et un pôle actualité. L'enjeu... Ouais, c'est toutes les grandes boîtes connaissent ça. Enfin, c'est voilà. Donc, on a un problème. Du coup, on va réorganiser l'entreprise. Et alors, vous, on veut la direction machin. Là, on va l'appeler comme ça. Et puis vous, vous serez plus sous la houlette du bidule. Vous serez sous le truc de machin. Et ça change chaque année. Oui, rajoutez MMG. Voilà. Mais bon, c'est un peu déceptif quand même. L'enjeu est important. Après plusieurs erreurs l'an dernier à l'antenne de France Info, hein, au niveau éditorial, il y a eu des petites bourdasses, mais aussi sur les JT de France 2. L'objectif est d'avoir une vision à 360 de l'ordre d'info et d'être le meilleur standard de déontologie et respect du pluralisme, quel que soit le format, décrypte un cadre dirigeant du groupe. Mais c'est des éléments de langage dans les grosses boîtes, ça. Mais ça nous dit toujours pas ce qu'ils veulent faire, quoi. Hein. On va casser les silos. Autre info, voilà, la nouvelle direction du produit des technologies de FTV compte mettre l'accent sur l'expérience utilisateur. Voilà. Et il y aura une nouvelle direction de l'IA, je vous en parlais, à partir de juin. Alors ça c'est le résultat de quoi tout ce document incroyable là, hein. 4 mois d'ateliers et de travaux ont permis de peaufiner ce projet. Il y a 4 mois de travail là. On va casser les silos. Non, faut faire des trucs, faut faire des émissions. Les gens, ils veulent du contenu. Ils veulent consommer des trucs de qualité. Voilà. Et les mettre sur les plateformes que les gens consomment aujourd'hui, quoi. C'est ça. Il faut inventer des programmes. Il faut des IP, comme on dit, comme disent les ricains. Faut pas faire des silos. Faut pas créer une direction de qu'on va donner à Jean Leduc qui va bosser avec Patrick le champion et avec Isabelle je sais pas quoi. Non. Il faut inventer des émissions. Il faut inventer des concepts. Faut des nouvelles écritures. C'est ça en fait qu'aurait dû servir les 4 mois de réflexion là. En gardant les mêmes directions d'ailleurs. Ces gens sont intelligents, ils sont capables de gérer ça. Hein. Si 4. Je suis vraiment. Je râle parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut bosser. Si 4 mois d'atelier et travaux ont permis de peaufiner le projet, il s'agissait d'une priorité de Delphine Ernotte l'an dernier au moment d'être reconduite par l'ARCOM pour un 3e mandat. Merci la Mandalorienne. Merci Clama Coquine. Merci Robin. Mais France Télévisions est réputée dans l'industrie comme un paquebot difficile à manœuvrer. Oui, c'est pas facile. En fait, je vous l'ai déjà dit ça, j'aimerais pas être à leur place. C'est super dur. C'est super difficile. C'est super compliqué. C'est très très dur ce qu'ils font. Tu bosses avec... Tu as en main un outil qui a été très puissant, qui commence à moins bien marcher. Il faut te réinventer, il faut créer de nouvelles choses. Mais tu es entouré de gens qui savent faire le truc d'avant, quoi. Comment tu passes à l'autre modèle? Oh la vache, c'est super dur. Là, je me moque un peu en disant, franchement, on demande qu'à voir et on voit rien. Si je veux être un peu sérieux, c'est super dur. C'est super dur à faire. Moi, France Télévisions, des gens qui ont compris tout ça et qui ont plein de bonnes idées, j'en connais plein. Mais ces gens, ils n'ont pas la main. Hein. Ils lancent des trucs et ça fait une réunion et 2 réunions et 3 réunions et 2 mois de réunion et 6 mois et il ne se passe rien. Ou alors, il se passe un truc, mais il y a tellement de gars qui viennent donner leur avis dans les directions et qui n'y connaissent rien, que le truc ressemble à rien. C'est dur. C'est très, très dur. C'est pas facile. C'est plus facile quand t'es deux dans une pièce, une petite équipe de créateurs de contenu avec de la souplesse, de la liberté, tu fais ce que tu veux, de lancer des concepts un peu inédits. Ça se plante... 2 jours plus tard, tu lances autre chose. Ça, c'est la légèreté, la liberté, la souplesse des petites unités de créateurs de contenu que vous connaissez. C'est tous les gens que vous aimez, que vous consommez, hein, même si certains sont devenus des grosses équipes maintenant. Mais des grosses boîtes comme ça, elles peuvent pas faire ça. Hein ? C'est très compliqué. Même si l'objectif de la réorganisation n'est pas de réduire les dépenses, l'autre gros challenge sera de la mener à bien, tandis que le groupe doit réaliser 140 millions d'euros d'économie. Et en plus, allez, tant qu'à faire, hein, on demande à cette boîte de se réinventer, de se révolutionner, et on lui dit en même temps, et tout ça tu vas le faire avec 140 millions d'euros en moins. Hein. Année après année, le budget qui baisse. Bon, bah, c'est compliqué. Je ne voudrais pas être à leur place. En diminuant ses investissements en série, allez, en film, en divertissement, en cédant des droits sportifs, hein, vous l'avez vu récemment, et en réduisant le nombre total de salariés, et on supprime 120 postes cette année. Ok. C'est quasiment... C'est mission impossible, leur truc. C'est mission impossible, leur truc. Plus les discours idéologiques de... On n'en parle pas ici, mais... Oui, le service public, de toute façon, hein, faudrait le fermer, et puis voilà, puis moi je vais te privatiser tout ça, et puis t'as de feignants... Ouais... Mais là, ce que je décris pour France Télévisions, c'est vrai pour TF1 et M6. TF1 et M6 sont dans une situation économique plus enviable. Hein, ce sont des entreprises qui gagnent de l'argent aujourd'hui, mais qui voient leur marge se réduire et être très compliquée. Et le défi de la création de nouveaux contenus et de la réorganisation, TF1 et M6, qui n'ont pas les soucis notamment de discours politiques et idéologiques sur « il faut fermer le service public », ils ont le même problème. Merci Karine pour le raid. Karine, t'étais sur quoi? Vous étiez sur quel contenu? Merci Karine. J'adore la présentation de cette chaîne que je vous montre. Karine qui vient de nous raid. Bienvenue chez la sorcière des mots. Auteur hybride en thriller et urban fantasy. Tu aimes les livres intenses? moi je les écris. Alors ça c'est pas mignon. Si tu es auteur, profite aussi de mes 25 ans d'expérience en tant que formatrice en écriture. Je vais faire briller ton roman, tu verras. Est-ce qu'on peut épingler cette chaîne de Karine, s'il vous plaît? N'hésitez pas à aller follow la chaîne qui vient de nous raid. Hop! Qui vient de nous donner de la force. Et vous l'avez en haut du chat. Il n'y a qu'à cliquer à suivre et comme ça, vous verrez ce que fait Karine. Merci, Karine. Donc voilà, le petit échange. Il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Après, je vous quitte, j'ai un rendez-vous. Parce que j'ai un article sur Ubisoft à vous lire très vite aussi. Coworking écriture. Je finis mon 31e roman, me dit Karine. 31e roman. On parlait de la difficulté des médias traditionnels à se mettre à la page du numérique et d'Internet. Les envoyés spéciaux, compléments d'enquête, cache sur investigation, le vu, ça cartonne sur Internet, ils ont des réussites aussi. Mais bien sûr, Zartmo, il y a des programmes de qualité. Personne n'a dit ici que sur France Télévisions et sur TF1 et M6, il n'y avait pas de problème de qualité. Mais ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. Là, on parle d'émissions, pour le coup, traditionnelles, pensées pour un média traditionnel, qui, par leur qualité, trouvent aussi leur public sur Internet. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aujourd'hui, il faut inventer de nouveaux programmes, c'est le plus dur, hein, de nouveaux concepts, de nouvelles IP qui vont aller séduire les nouveaux publics ou la nouvelle manière que le public a de consommer l'information et le divertissement, puisqu'on ne parle pas qu'à un public jeune. Aujourd'hui, des gens de plus de 50 ans qui consomment du divertissement ou de l'info quasiment exclusivement sur Internet, il y en a de plus en plus aussi. Allez, je termine avec Ubisoft très très vite. Voilà. Alors d'abord, on va aller voir le titre Ubisoft en bourse là, qui dégringole. C'est vous qui me l'avez appris tout à l'heure, mais dégringole. On était à moins 30% tout à l'heure. Allez, on va sur Boursorama. Boursorama, le site où tu peux constater les dramas de la bourse. Et tu tapes, c'est où la recherche sur Boursorama? Tu tapes Ubisoft ici. Et tu l'as ici. Allez, moins 34% en une séance. Vous avez une entreprise, Ubisoft, considérée comme le numéro 1 du jeu vidéo français en termes de taille, hein, qui, en une séance, voit fondre sa capitalisation boursière d'un tiers. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Voilà. Et on me dit qu'il y a un préavis de grève. Ah, c'est compliqué pour Ubisoft. Voilà, programmateur Ubisoft dans le chat, Brest Panda, en envoyé spécial pour Samuel, et on n'est pas content et c'est la merde. Voilà. Alors moi, j'ai acheté l'Ubisoft quand l'action était très très haute, vous voyez. Donc, comme quoi, je suis quelqu'un de courant, je suis quelqu'un d'informé, je suis quelqu'un vraiment qu'il faut écouter parce que je suis un visionnaire, moi. Voilà. Mais je plains les équipes d'Ubisoft, ça va être très compliqué à vivre. Alors, Ubisoft, réorganisation, voilà, et aussi annonce de l'arrêt du développement de toute une série de jeux. Et c'est sans doute ce qui provoque la chute de l'action, quoi. Voilà. Le géant européen du jeu vidéo, article dans Le Figaro ce matin, se réorganise en 5 pôles dédiés à des genres porteurs. Les fermetures de studios et les licenciements vont se poursuivre, tandis que le télétravail s'arrête. Je pense que c'était des annonces qui visaient à redynamiser notamment le cours de bourse de l'entreprise, éventuellement résister... à une prise de contrôle, par exemple, par, je sais pas, Tencent, l'actionnaire chinois, là, c'est raté. Hein. Moins 34%. Ouais. Le Big Bang écrivait, donc, ce matin, le Figaro, avant que la Bourse de Paris ouvre. Le Big Bang annoncé d'Ubisoft est enfin là. Après des mois de teasing, le géant européen du jeu vidéo vient de dévoiler au marché une transformation majeure de son organisation, refonte majeure, qui vise à créer les conditions de... du retour à la croissance, nous transformons le modèle opérationnel d'Ubisoft afin de produire des jeux d'une qualité exceptionnelle, dit le PDG Yves Guillemot. Ok, super. Objectif, retrouver notre leadership créatif. Ok, super. Pour en arriver là, Ubisoft va revoir de fond en comble sa manière de produire ses jeux. Plutôt que de prendre toutes les décisions depuis le siège de Saint-Mandé, le groupe va adopter une organisation décentralisée. Sur le papier, c'est sympa. où des pôles spécialisés dans certains genres de jeux vidéo auront à la fois une responsabilité créative, du développement jusqu'à la distribution. Donc plus d'indépendance de ces pôles par rapport à une direction centrale, y compris une responsabilité financière. Voilà. Le premier de ces pôles existe déjà, Vantage Studio, co-détenu par Tencent, le chinois, et qui gère les trois plus grosses licences d'Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Quatre autres pôles vont être créés en avril. Quelqu'un me disait, rien à foutre d'Ubisoft. Bah, pas moi. Bah, derrière, il y a des emplois, les gars. Derrière, il y a des emplois. Il y a Stacy qui dit, c'est grave, les gens qui sont heureux de voir Ubi couler, je comprends pas. Bah, d'abord, c'est une boîte française. Et puis, il y a des emplois derrière. Il y a des développeurs, il y a tout ça. Donc, calmons-nous, hein. Moi, j'en ai à foutre. Je serais content qu'une boîte française dans le jeu vidéo cartonne, quoi. Une boîte française qui appartient à Tencent. Pas encore, Poupouton. Je crois pas qu'ils soient majoritaires, les Chinois, de Tencent encore. Ou alors j'ai raté un truc, peut-être, hein. Donc, quatre autres pôles vont être créés en avril. Le premier sera spécialisé dans les jeux de tir compétitifs et coopératifs. Il gérera par exemple Splinter Cell, Ghost Recon. Le deuxième, centré sur le jeu en ligne, ciblé à forte personnalité comme For Honor de Crew ou Bralala. Le troisième pôle, monde fantastique, immersif, univers narratif. Ils ont fait des pôles de famille. Anno, Redman, Prince of Persia. Le dernier se concentrera sur les jeux familiaux et grand public comme Just Dance. Donc chacun des silos, chacune de ces maisons créatives aura sa propre direction, ainsi que des studios de production dédiés. Ouais. C'est un peu l'idée. Sur le papier, c'est pas mal. Pour remonter le niveau de qualité de ses productions, Ubisoft annonce accorder plus de temps à 7 jeux en cours de développement, mais, et c'est sans doute la raison de l'énorme chute en bourse ce matin, hein, on parle de moins 30% au moins, mais il annonce aussi mettre fin à 6 autres projets, dont le remake de Prince of Persia, The Sands of Time. Le jeu devait sortir dans quelques semaines après une production difficile. Donc, a priori, c'est abandonné. Ubisoft précise que 3 autres jeux annulés étaient de nouvelles licences. Les équipes travaillant sur ces projets seront soit repositionnées sur d'autres jeux, soit licenciées. Voilà. Comment se féliciter de ça? Désolé, moi, je ne me félicite pas de ça. Hein. Ces jeux, il y a des joueurs qui les attendaient. Il y a des gens ici qui bossaient sur les jeux et qui vont peut-être perdre leur emploi. Quoi. Alors, pardon, moi, je ne me félicite pas de ça. On ne sait pas encore quels jeux sont annulés. Les salariés sont dans une grande détresse, confie un élu du personnel. Voilà. Encore un plan de réduction des coûts à venir. 200 millions d'euros sous 2 ans, ce qui portera à 500 millions d'euros les économies dégagées depuis 2023. Les salariés restants vont devoir renoncer au télétravail. Ubisoft met fin à sa politique qui est autorisée jusqu'à 2 jours par semaine en dehors du bureau. La règle sera désormais de 100% présentiel accompagné d'un quota fixe de jours de télétravail à utiliser dans l'année. Voilà. Quelqu'un me parlait d'un mouvement de grève chez Ubisoft. Donc voilà. Alors je vous lis, vous êtes nombreux à souligner le fait que la direction de ce groupe n'est pas à niveau des enjeux. Voilà, que c'est un groupe qui est mal géré, qui a été mal géré. Je vous lis un petit peu, et dans 2 minutes, je vous abandonne. Réduire le TT, c'est la pire idée. Comme c'était le TT le problème. Je vous lis, hein. Ça ne va rien changer de réduire le TT, nous dit Sugar. La faute à des responsables incompétents, me dit Jig Soundcloud. J'aurais bien besoin de toi, Jig, parce qu'au niveau de ma SoundCloud, moi, ma Soundboard plutôt d'ailleurs, hein, j'ai des soucis. Pourquoi ce Ubisoft bashing? Il y a Ziwa qui me répond, mais ça sert à rien de défendre une boîte qui ne reste pas. Respecte plus ses clients slash joueurs depuis des années. Le non-respect des joueurs, précise Slan Abail. avec des jeux réchauffés et la mise en avant abusive des microtransactions, un jour ça se paie, Ubisoft n'a que ce qu'il mérite. Oui, mais je pense un peu aux gens qui travaillent à Ubisoft, vous voyez. Je peux pas me réjouir de ça, moi. J'ai pas joué à beaucoup de jeux Ubisoft, moi. Donc je connais pas trop leur création. C'est la direction qui prend ses éditions, pas les devs, mais oui. Et oui. Bah voilà le résultat à pas y jouer. Voilà, il y a Darcelot qui m'engueule. Sam, si t'avais plus joué à des jeux Ubisoft. Oui, Assassin's Creed, mais Assassin's Creed, j'ai découvert. Sugar, tu le sais, mais j'y ai pas joué sur la longueur. Le jeu est fou, mais. Bon, en tout cas. Moi, n'en déplaise au tenant du Ubisoft bashing, je comprends la déception du joueur aussi par rapport à un jeu qui l'a déçu, ou un système économique, l'insistant au micro-paiement, ce genre de choses décevant. J'entends ça. Mais après je suis triste pour les gens qui travaillent dans ces entreprises. Il y a Madroco qui dit vous faites un procès à Ubisoft que vous pourriez faire à n'importe quel acteur AA de l'industrie, quoi. Bon, les amis, des bisous. Je vous abandonne. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis en live ce matin sur Twitch. Je remercie tous ceux qui vont nous écouter aussi en replay sur YouTube, en général à J+1, et en replay sur Twitch aussi pour les abonnés. Et ceux qui vont nous écouter à partir de 15-16 heures en replay, en podcast audio, puisque depuis la rentrée de septembre, cette revue de presse, elle est postée par Vincent à partir de 15h-16h tous les jours sur toutes les plateformes de podcast audio, les Apple Podcasts, les Spotify, les Deezer, toutes les plateformes. Et merci parce que vous êtes super nombreux à écouter cette revue de presse en podcast audio. Je sais pas, en courant, en faisant vos courses, en travaillant, en allant aux toilettes. Et je vous en félicite et je vous en remercie. Merci beaucoup. On va faire un raid et puis. Je vous retrouve peut-être ce soir, je dis ça tous les matins, pour un stream de gaming, sauf que comme j'ai un peu de boulot en ce moment, je dis ça tous les matins, et au final, il n'y a pas de gaming. Je vais faire un effort quand même. Qui est en live? Alors là, j'ai bien envie de vous faire découvrir un truc. J'ai une idée, ne dites rien. J'ai découvert, tout seul comme un grand, il n'y a pas longtemps, une streameuse qui, manifestement... Alors, est-ce que c'est à temps plein ou je sais pas, et chauffeur routier. Elle s'appelle Chloé _IRL, Trucker Girl. Je pense qu'elle n'est pas française, parce que je vois tous les commentaires dans le chat sont en anglais. Mais je me demande si elle n'est pas sur les routes européennes. Voilà, je me demande même pas si elle n'est pas sur une route française. Là, j'ai l'impression qu'elle sillonne l'Europe. Avec son camion, voilà, et elle a l'air étonnante. Voilà. On me dit qu'elle est belge, qu'elle est flamande. Ok. Il y a beaucoup de monde. Il y a 2615 viewers déjà sur sa chaîne, donc c'est une grosse chaîne. Mais moi, je trouve ça assez fascinant. Alors, c'est mon premier raid vers cette chaîne que j'ai découvert tout seul. On me dit qu'elle fait de la simulation de conduite de truck quand elle conduit pas. Ok. Alors Chloé, c'est Chloé. Voilà, je l'ai. Donc a priori. C'est en anglais, mais si elle est belge, du coup, elle belge flamande, mais du coup, elle parle français ou pas? Elle aime vraiment son job. J'ai déjà suivi ses streams, c'est cool. Ok. Et bon, on va la voir. Voilà. En tout cas, elle a l'air très sympa et je crois qu'il y a une bonne ambiance dans son chat. Le podcast s'appelle comment sur Spotify? Tu tapes Samuel Etienne. Des bisous. Je lance le raid. Je vous dis, je l'espère, à ce soir et au plus tard à demain matin pour la vue de presse. Ciao.